Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 23 janvier 2010, nos programmes pour cet après-midi. À 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Zarma Farai et à 17h FMR 7 l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici l'épopée spatio-temporelle que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end...
S'il vous plaît, faites des interviews construites, intelligentes, n'hésitez pas à rentrer dans le sujet. Parce que nous, on en a marre qu'on nous dise ça, c'est loin d'être le premier à nous le dire, Sébastien Vioza. Et nous, des fois, on a du mal à sortir du studio, pas tellement que la tête, elle fait mal quand on passe la porte. Il y en a marre, et je vous en dis pas.
Enfin, bah, bref. Même si on n'avait pas besoin de ça, donc, pour avoir les chevilles qui enflent, mais c'est vrai qu'à force, c'est bien. C'est pour ça qu'on fait des interviews, c'est pour s'entendre ce genre de choses.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour Ultimatum.
Bonjour Dascritch.
Bonjour du sport.
Non. Bonjour.
Ouais, super.
À la bonjour.
Bonjour. Tu choisis le rouge ou le vert, je m'en fiche, mais bon, il faut que tu en choisisses un.
T'as un problème là avec les couleurs.
Non ?
Le rouge, c'est lui.
Oh, pardon.
Ah, tu veux qu'on échange ?
Non, ça ira. Faudrait qu'on arrête quand même de se passer de la brosse à reluire systématiquement. Ça, c'était pour vous expliquer l'interview de la semaine dernière de Sébastien Vioza. Pour ceux qui nous ont pas écoutés sur le podcast ou en direct ou dans les rediffs, une fois de plus, encore une fois, on a eu un invité qui a dit « Ah, ça fait plaisir, enfin des questions !» C'est un petit peu agaçant, quoi.
En tout cas, si vous trouviez qu'on s'était pas mal passé de la brosse à reluire la semaine dernière, on a remis une couche aujourd'hui, donc c'est cool.
Voilà, exactement. Cette semaine, il y a plein de choses qui vont se passer, plus exactement à partir de la semaine prochaine. On vous rappelle donc que la semaine prochaine, le supplément week-end est en direct à Angoulême avec Actua BD, invité par le Conseil Général des Jeunes de la Charente, où ils remettront leur prix. En collaboration avec Actua BD, un prix découverte sur donc une présélection de 5 albums. On a déjà parlé la semaine dernière, il me semble. Non, il y a 15 jours. On sera en direct sur place pour normalement 2 heures. Je sais pas, du sport, toi, t'auras prévu de passer la musique après. Ne me dis pas 3 parce qu'on n'a pas prévu le local pour aussi longtemps. Et accessoirement, on aura des infos et peut-être même des choses qui seront préenregistrées sur place pendant le festival pour vous donner un petit son d'ambiance, vous donner une ambiance.
Un parfum goumoisin pour les BD files.
Voilà, exactement. On verra ça. Peut-être qu'on mettra des petites pastilles à partir du mercredi soir pour vous donner, une ambiance générale et tout le reste. En même temps, à Toulouse, mais on n'y sera pas, il y aura le festival du livre jeunesse qui aura lieu à Saint-Aurin. C'est aussi un petit peu à Toulouse. C'est le 30 et 31 janvier. C'est au lycée Paul Riquet avec des auteurs. On y retrouve Gilbert Baquet, Brigitte Carrère, Olivier K, dans le long, Michel Cosem, Fabien Morel, parmi les illustrateurs, Isabelle Charlie, Patrick Goulesque, Marc Guessant, Stéphane Sénégal, Séverine Duchesne, Mathieu Roussel, bon, d'accord. Peut-être qu'il est roux, je n'en sais rien. C'est axé surtout principalement autour des contes, avec des lectures autour, par exemple, il y a Les Mille et Un Visages de Blanche-Neige, Sous l'Olivier, Contes juifs et arabes réunis, Sous les ailes d'un oiseau, Forgeur d'histoire. Tout cela a lieu donc lors du Festival du Livre Jeunesse à Saint-Aurin. L'entrée est annoncée comme gratuite et annoncée d'autres événements qui auront lieu à côté à ce moment-là, notamment je sais plus où j'en suis. Voilà, il y aura au cinéma Studio 7 à Ozios des projections et lectures de contes, médiathèque José Cannabis, vous savez là le grand radiateur,
les pas trois c'est Cabanis, pas Cannabis hein.
Ouais, mais jusqu'à fumer l'architecte, où tu en conviendras quand même que au secteur jeunesse il y aura une projection de Michel Osselo, les trois inventeurs, mardi prochain, et des projections autour des contes, ainsi que au musée de Toulouse. Plus d'informations, on aurait dû peut-être mettre en ligne, non, il n'y a pas de site web, association.flj.free.fr. dommage, j'aurais dû m'en rendre compte un petit peu plus tôt. Pendant ce temps, nous, on sera revenus d'Angoulême, et le samedi 6, il y aura une séance de dédicace avec Bruno. C'est à la librairie Gilbert Joseph à partir de 15h. Il sera là en dédicace pour Commando Colonial, Biotope et aussi le deuxième tome de Junk qui vient de sortir. Quoi, c'était toi qui avais raison. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? D'autres projections, je crois, toujours autour de l'Asie.
Oui, donc c'est à partir du 26 janvier jusqu'au 14 février 2010, et donc ça s'appelle Made in Asia, et donc ça existait déjà l'année dernière. Alors c'est une suite de manifestations autour de l'Asie. Donc il y a des spectacles chinois, des concerts, il y a le Vietnam, d'événements autour du Vietnam avec du théâtre, ensuite il y a des projections de films, il y a autour des femmes d'Asie, donc c'est à la médiathèque toujours José Cabanis, avec des documentaires, des fictions, notamment un film coréen qui s'appelle Mother qui a bien été connu l'année dernière, portrait de femmes chinoises, etc. Il y a beaucoup de films, il y a aussi des films d'animation, notamment le dernier film d'animation de Rintaro, de l'auteur de Metropolis, et voilà.
Donnez le nom.
Rintaro,
oui, et le nom du film.
Le film, il faut que je le retrouve en fait.
D'accord, ok. Parce que si c'est celui que je pense, je crois qu'il est en 3D, il est vraiment impressionnant.
D'accord. Et ensuite, voilà. Bon, il y a plein de films. Il y a des ateliers pour d'Ikebana, de la calligraphie chinoise, des massages énergétiques, de l'origami. Bon, voilà. Si vous êtes fan d'Asie en général et pas que de cinéma ou de vous pouvez aussi. Vous pouvez y aller parce que je pense que ça doit être bien sympa. Donc c'est du 26 janvier au 14 février. Ça s'appelle Made in Asia et c'est sur Toulouse et les environs, Blagnac, Coulommiers, Tournefeuille, etc., etc.
Pendant que du sport est en train de me filer des trucs, juste une chose, samedi 13 février, après on aura Paul Coé et Wilfried Lupano, l'honneur des Tsaroms, qui vient de sortir chez Delcourt, deuxième tome. Ce sera à partir de 15h à la librairie Terre de Légende. Voilà. Arrête de me regarder comme ça, Thomas. Oui, je sais.
Oui, je crois que... Enfin, c'est ce que je me disais tout à l'heure, t'as changé de lunettes, toi.
Ouais, fallait que je les change. On a cherché un look original. Alors, au départ, on avait celui de Clark Kent à la fin des années 1970.
Ouais, bon, enfin, en même temps, ça bouffe vraiment le visage. Et puis, bon, c'est un peu ce qu'il cherche en même temps. Mais bon, je suis désolé, mais t'as pas vraiment sa carrure non plus.
C'est surtout parce que c'est Madame Kent, c'est sa maman qui lui avait choisi la monture à l'époque. Hein, bon. On a pensé à la même monture que David Tennant, tu sais, le docteur.
Ouais, mais, pas trop old school. Hein.
Ouais, exactement. Et puis, finalement, on a songé à la même monture que Noah Bene. Tu sais, dans Heroes, le genre de mec a pété un bras en réparant le photocopieur. C'est pratique pour le boulot, ça. $40 plus les frais.
Oh putain, ça fait peur. Mais ils me font la même monture là.
Les news.
Oula, bon, ok.
Et on entame les news après l'agenda avec quelque chose qui n'est pas forcément très gai, puisqu'il s'agit du décès de Jacques Martin. Jacques Martin, non pas l'animateur, mais bien le dessinateur, créateur d'Alix et de Lefranc, qui nous a quittés donc avant-hier à l'âge de 88 ans. Jacques Martin est entré dans le journal de Tintin en 1948. Où il fit très vite partie du studio Hergé, et dont le maître a illustré des éléments dans Tintin, tout en travaillant sur la série qu'il venait de créer la même année, à savoir Alix. Les tribulations d'un jeune Gaulois à travers l'Empire romain, à l'époque de César et de Pompée, et qui ira bien au sud de l'Égypte et même jusqu'en Chine. Son histoire en costume est bourrée d'imperfections dans la première aventure. Ayant été surpris par l'assiduité de ses lecteurs, Jacques Martin a commencé par se documenter et à faire en sorte que cette série ne puisse être prise en défaut. La précision historique est donc venue par la suite dans la série et a été louée par les spécialistes de l'Antiquité. Il lance en 1954 Les Aventures Contemporaines de Lefranc, journaliste de la presse écrite qui a le malheur de croiser dans ses enquêtes les sombres dessins de l'aventurier Axel Borg. Là aussi, le succès prend d'autant plus facilement que les aventures sont nettement plus sombres que celles de Tintin. Martin est un auteur assez entier. Sa relation avec Hergé était houleuse au sein du studio. Il a profité de la notoriété d'Alix et de Lefranc pour s'installer à son compte. À noter que si les aventures furent prépubliées dans le journal de Tintin, lequel était édité par Le Lombard, et ben à partir du sixième album, celles-ci sont éditées chez Casterman. Comme pour Tintin, justement. Toujours sur sa lancée de la bande dessinée en costume, il travaillera le Moyen-Âge avec Gênes et la Grèce antique avec Orion. En tout, c'est 120 albums de bande dessinée et albums extra BD, notamment des guides et des histoires, qu'il a réalisé durant sa carrière. Jacques Martin n'était plus vraiment actif suite à une mourue, une maladie dégénérative des yeux qui l'a rendu quasiment aveugle. Il avait donc préparé depuis 20 ans sa succession, ce qui fait que sa série a toujours continué à sortir, à exister, en commençant par confier le dessin d'une aventure de Lefranc à Gilles Chaillet, à savoir l'Apocalypse, puis ensuite en formant des élèves comme Raphaël Morales et Christophe Simon, que nous avions interviewés à l'époque il y a 8 ans. Mais même s'il ne dessinait plus et qu'il avait cédé en partie le scénario, il tenait à garder le contrôle des histoires, jouant le rôle de directeur d'écriture. Jacques Martin est l'un des piliers de la bande dessinée franco-belge. Sa ligne claire était celle d'une représentation ultra-réaliste du même niveau qu'Edgar Pierre Jacobs. Nous taisons les polémiques pour saluer un auteur à la carrière bien remplie qu'il a lui-même placé sous le signe de la qualité. Jacques Martin, merci pour tes albums et au revoir, charmant conteur. Allez, quelque chose de nettement plus gai que la disparition d'un auteur, ce qui est jamais très évident à écrire, quand même une notice biographique. Plus d'informations sur le site d'ActuaBD, surtout les informations qui sont écrites et vérifiées. Et évidemment, les commentaires sont ouverts pour les gens qui souhaiteraient laisser un hommage ou un témoignage en tant que lecteur, peut-être de gens qui ont connu Jacques Martin. Thomas, dis-moi, quelque chose de plus gai, plus drôle
Ah, peut-être pas plus drôle, mais plus gai, ça c'est sûr. Donc, les nominations pour les Césars 2010 ont été annoncées.
Oh, du cinéma français !
Eh oui, n'oublie pas d'acheter le pain.
Parce qu'il y a le jardinier sous la pluie, voilà, bien évidemment.
Des trucs comme ça. Ah, attends, t'es pas branché.
T'es pas branché.
Vas-y.
Non, mais il était pas branché.
Non, j'ai coupé
non, mais
le micro.
Attends,
oh, le débutant, il coupe son micro.
Mais c'est moi qui fais ça, normalement. Tu sais, t'as pas besoin de le faire. Je l'avais coupé pendant que tu jouais avec les douches. Bon, vas-y.
C'est quoi ton titre de film ?
Ouais, n'oublie pas que j'ai oublié la bonnette du micro et que j'ai enlevé le bouton.
Voilà. Bien rattrapé. Alors, parmi les films nommés cette année, donc on a un film que nous avons chroniqué à l'antenne, donc qui s'appelle C'est un prophète de Jacques Audiard avec Tahar Rahim.
Oui, là ça a rien à voir justement avec les films dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, ça c'est plutôt
on joue dans la catégorie des chefs-d'œuvre.
Voilà, et puis c'est du son, et puis limite film de genre aussi, puisque c'est sur l'univers carcéral et c'est vraiment teinté polar. On a aussi un autre film plutôt de genre aussi qui est Rapt, avec réalisé par Lucas Bellevaux avec Yvan Attal. On a Les Herbes Folles sémillant et tout jeuneau Alain René. On a Le Concert réalisé par Radu Mihailianu à l'origine de Xavier Giannoli. J'oublie Welcome de Philippe Pioré avec Vincent Lindon. Et La Journée de la Jupe réalisé par Jean-Paul Lillenfeld. Donc ça c'est les nommés pour le film. le meilleur film, ensuite le meilleur réalisateur. Bon, ben, on a à peu près les mêmes, hein, sauf que le nombre de films étant plus grand que le nombre de réalisateurs. Donc on va voir les réalisateurs des films prénommés. Donc il y a les réalisateurs que j'ai nommés. Donc réalisateur d'Un Prophète, Jacques Audiard, on a Luca Bellevaux, Xavier Giannoli, Philippe Lloret et Radu Mihalianou. Et meilleur acteur, donc on a Yvan Attal pour Rapt, François Cluzet qui est nommé deux fois pour deux films, donc À l'origine et le dernier pour La Route. On a Vincent Ledon dans Welcome et Tahar Rahim dans Un Prophète. Et c'est vrai qu'on avait quand même moi j'avais bien aimé le film Les Derniers Jours du Monde dont on avait parlé ici. Il n'y a aucune trace, pas de nomination ni rien. Bon, ça c'est
trop politique.
Ouais, pourtant Mathieu Amalric était vraiment pas mal. Bon, c'est dommage. Meilleure actrice, oui, trop politique, tout ce qui devient capitale de la France
avec Douce Noblesse. Voilà. Non, pardon, on arrêtera.
C'est qui ça?
Oui, justement, on arrêtera, c'est un privé de joke à ce stade.
Les nommés pour la meilleure actrice, nous avons Isabelle Adjani dans La Journée de la Jupe, on a Dominique Blanc dans L'Autre. Donc ça c'est
à noter que La Journée de la Jupe est un film qui est coproduit par des chaînes de télé, qui est sorti à la télé, qui avait été diffusé sur Arte au départ.
D'accord. Avant
de sortir en salle.
Alors là, on a codé des habitués.
Ce qui est assez rigolo, parce que les Oscars, tu peux pas être nominé dans les Oscars si pendant l'année, ça a été diffusé à la télé, même sur une chaîne payante, ou même je crois en VOD d'ailleurs. Hein.
D'accord.
Donc voilà.
Dans les meilleures actrices, on a que des habitués, donc Isabelle Adjani, Dominique Blanc, Sandrine Kiberlain, Christine Scott Thomas et Audrey Tautou. Christine Scott Thomas, oui, maintenant elle est devenue.
Elle est française.
Elle a été adoptée maintenant, c'est bon.
Marie-France Piercé et Île-de-Françoise, c'est ça.
Bah, tu sais, Adrien Brody pour Le Pianiste, il avait bien eu le César du meilleur acteur alors qu'il parle quasiment pas un mot de français. Hein. Donc voilà. Ah oui, alors ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on va voir quand même dans la catégorie meilleur second rôle, on va avoir donc Nina Rostrup pour Un Prophète, c'est du costaud. Jean-Luc Anglade dans Persécution, Michel Villermoz dans Le Dernier Jour pour la Route, et Bona Poulvord dans Coco avant Chanel, et Joe Estar dans Le Bal des Actrices. Ça va être assez rigolo. Bah, ça tombe bien, il vient de sortir de prison, donc il pourra se rendre tranquille à la cérémonie.
Il pourra foutre le why histoire d'y retourner, quoi.
Voilà.
Ne manquez pas le tapis rouge sur Canal+, juste avant, pendant l'émission des LHQ favoris. Le grand journal.
Et ce qu'il y a de rigolo aussi, c'est dans la sélection du meilleur film étranger, on risque fort d'avoir l'Oscar de l'année dernière en compétition contre l'Oscar de cette année, puisqu'on a Slumdog Millionaire et Avatar qui sont dans la même compétition. Oh. Alors que Slumdog Millionnaire a été considéré comme un film appartenant à l'année 2008 pour les Américains quand même.
Donc, oui, et qui est déjà diffusé sur Canal Plus en ce moment. Hein.
Qui est déjà diffusé, qui a déjà eu les récompenses et tout. Donc nous, on est un peu arrivé après la bataille. Outre Avatar et Slumdog Millionnaire, on a également Gran Torino de Clint Eastwood, Harvey Milk.
Mais Gran Torino, là aussi, il a.
Il est sorti cette année.
En France, c'est pour ça.
Oui, mais après, je veux bien qu'Eastwood fasse beaucoup de films, mais c'est vrai que Invictus est sorti moins d'un an après la sortie de Gran Torino. Hein, donc
j'ai un programme, un autre Eastwood qui est sorti juste avant.
D'accord. On a aussi J'ai tué ma mère, réalisé par Xavier Dolan, Panico Village.
Non, c'est pas moi.
Voilà. Panico Village, réalisé par Stéphane Aubier et Vincent Patard. Et enfin, Le Ruban Blanc, réalisé par Michael Haneke, qui a trusté le Golden Globe du film étranger au nez à la barbe d'un prophète. Voilà. Et à noter que l'acteur principal d'Un Prophète, Tahar Rahim, est également nommé aussi dans Meilleur Jeune Espoir. Donc peut-être qu'il va avoir deux récompenses pour le prix d'une, on sait pas.
Court toujours. Hein.
Oui, généralement le genre. Bon, il y a eu Vincent Cassel l'année dernière. Bon, c'est bien de revenir.
Mais là, vu les premiers rôles que t'as cités, il y a pas de problème. Ça devrait pas échapper à Attal ou à Cluzet.
Oui, sans doute. Bah, Cluzet en plus, il a deux fois plus de chances que les autres puisqu'il a deux films.
Ouais, mais moi je penche plus pour Attal, tu vois.
D'accord. Eh bien, on te retrouvera l'extrait quand Attal, si Attal a le prix ou non.
Tout à fait.
Alors par contre, j'ai pas du tout noté la date de la cérémonie, je suis désolé.
On va trouver ça, allez-y.
César 2010.
Je sais juste que c'est traditionnellement la veille des Oscars, pour dire, nous aussi on a eu... Voilà.
Le cinéma français se porte bien.
Et juste une dernière info, Harrison Ford recevra un César d'honneur.
Oh, trop cool.
Voilà, donc Papy Indy...
Alors je vois que Sigourney Weaver remettra un truc d'honneur.
Oui, ben c'est elle qui lui remettra d'ailleurs à Harrison Ford.
Harrison Ford qui a d'ailleurs eu un prix au dernier Screen Awards 2009, un prix d'honneur pour l'ensemble de
sa
carrière.
Ce sera le 27 février 2010, donc effectivement juste avant. Il y aura Sigourney Weaver et Harrison Ford, hein, donc voilà. Apparemment.
Au moins l'un des deux qui parle français, c'est déjà bien.
Et la cérémonie sera présentée par Gad Elmaleh.
Bah,
et Valérie Mercier.
Voilà. C'est une bonne raison pour ne pas le regarder, tiens.
Ah bah si, moi je trouve que si, justement, quoi.
Non, Gad Elmaleh, c'est un connard de fasciste.
Oui, pas grave, il y aura Valérie Mercier pour contrebalancer, quoi.
Ah oui, je pense que ça va être assez drôle, oui.
Ouais, je pense que ça peut donner des trucs intéressants, quoi, justement, quoi.
Et si on partait vers d'autres galaxies, d'autres univers,
vers l'infini,
d'autres ailleurs et au-delà.
Bon, je peux reprendre mon bouquin alors.
Puisqu'il s'agit tout simplement du dernier album de la série Valérian et Laureline, scénarisé par Pierre Christin et dessiné par Jean-Claude Mézières. Série qui a été créée en 1968 et donc on arrive à une conclusion 30 ans après. Chez Dargo, le tome 21 s'appelle L'Outre-Temps et donc est arrivé hier. Et cela faisait un bail que l'on se préparait justement à cette fin, puisque les auteurs avaient dit non, mais là on va arrêter et on fait une sortie élégante. Vous allez voir, effectivement, elle est élégante. Ça, on va en parler après, tout simplement parce que. On va en parler maintenant. Si vous avez manqué les quelques épisodes de la série. D'abord, je vous invite à aller sur le site de l'émission supplementweekend.fr. Vous allez dans nos chroniques, on a remis en avant une vieille chronique qui a 2 ans justement pour la sortie du précédent album. Valérian et Laureline, les ex-agents spatio-temporels pour faire un résumé de toutes les tous les précédents albums. Et si vous avez vous souvenez que Valérian est un agent spatio-temporel qui rencontre Laureline au Moyen-Âge et que en fait cela se base sur un futur comme quoi 1986 New York et la plupart des grandes nations ont été détruites par une gigantesque inondation, c'est le fameux âge noir de la Terre. Maintenant, revenons à 1986. Eh bien, figurez-vous que ces événements-là n'ont pas eu lieu. Nos catastrophes nucléaires, on en a eu une, mais finalement pas le grand cataclysme qui aurait détruit toute civilisation. Et cela aura une conséquence importante pour le futur. La disparition de la planète Terre. Tout ce qui existait jusque-là de l'orgueilleuse Galaxity a été effacé de l'espace-temps. Il n'en reste que quelques rares humains et des sujets de moquerie à point central. Valérian et Laureline sont donc des SDF, des mercenaires qui acceptent des boulots comme ils viennent, c'est-à-dire bien souvent de manière louche. Mais bon, il faut bien payer l'entretien de leur vaisseau. Et ils n'ont pas perdu l'espoir de retrouver justement la Terre comme ils l'ont connue. Grâce à leurs contacts, ceux qui sont restés leurs amis ou leurs informateurs, le couple des ex-agents spatio-temporels pense avoir trouvé une piste. Mais la galaxie, est à l'aube d'un immense changement. Et les Wolok, ces immenses monolithes sortis du grand rien, deviennent de plus en plus nombreux et imposants. Des blocs aux dimensions titanesques qui traversent l'espace et qui semblent avoir lancé une guerre contre l'univers connu. Traversant donc les immensités de leur volume non moins immense, ils bombardent littéralement différentes capitales. Même la salle des écrans, le lieu de la démocratie galactique, à point central, a été écrasée de leur masse. Or, il est apparu à Valérian et Laureline que la Terre qui cherche depuis sa disparition serait retenue quelque part dans le grand rien, et qu'il serait possible d'y accéder grâce à l'outre-temps, un petit artefact précieusement gardé par les pauvres Limbos. Serait-il possible de manipuler une fois de plus l'espace-temps pour forcer le destin ? Alors on sait que Valérian est tourmenté à l'idée de mourir dans une chute à Galaxity. Retrouver la Terre du 28e siècle, qui n'existe plus suite à des manœuvres autodestructrices du service spatio-temporel, revient donc à l'agent Valérian non seulement d'accomplir son devoir envers Galaxity, mais aussi de faire face à sa propre mort. À la fin du cycle du Grand Rien, c'est là que les auteurs ont décidé de terminer leur série. et on remarque de moins en moins d'inventions de la part des auteurs. Et ils terminent ici leur saga d'une manière très élégante. Pratiquement tous les protagonistes de la série sont réunis dans une lutte idéologique finale. Le final, je vous laisse le découvrir, mais à mon sens, elle appelle quelque chose de neuf, toujours dans le même univers. Peut-être que les auteurs ont justement pas voulu totalement clore leur histoire, et c'est là que l'idée devient géniale. Valérian et Laureline, 21e tome, clôt la série, il s'appelle L'Outre-Temps. Pierre Christian et Jean-Claude Mézières, on les a rencontrés il y a 2 ans à Angoulême, justement, on souhaitait diffuser cette interview à ce moment-là, et justement, au moment de l'interview, eh bien, Jean-Claude Mézières entamait à peine le dessin. Interview donc et rencontre avec les auteurs. Pierre Christin, bonjour.
Bonjour.
Jean-Claude Mézières, bonjour.
Bonjour.
Donc bientôt la fin de Valérian et Laureline. Au moment où cette interview sera diffusée, le dernier tome devrait être sorti.
C'est vous qui le dites, hein, parce que j'ai encore 45 pages à dessiner à peu près, quoi.
Et je voudrais pas dire, mais faire de la radio, ça va plus vite que faire de la bande dessinée, de ce point de vue-là. Hein.
Oui, mais je fais des réserves, je stocke, et après je revends aux Shiguns, et eux feront un peu commerce là-dessus, ça. Puis voilà. Quand vous avez créé tous les deux Valérian en 1968, le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, n'était pas encore sorti. Mais à l'époque, on habillait déjà les top modèles de plastique et d'aluminium. Quelles ont été vos inspirations à l'époque pour créer votre Terre du 28e siècle ?
Oh, bah, y a d'abord eu des inspirations littéraires. C'est-à-dire que c'était la grande époque de la science-fiction américaine, de la science-fiction anglaise. Et que, justement, je trouvais, Jean-Claude, qu'il n'y avait pas du tout un travail graphique en France à la hauteur de ce qu'on pouvait lire aux États-Unis avec nos auteurs favoris qui étaient Isaac Asimov, Poul Anderson, etc. Ça a vraiment été le point de départ, c'est-à-dire beaucoup plus des choses écrites que des choses visuelles, ou alors c'était du visuel qui venait par exemple beaucoup plus de la peinture que du cinéma. Le cinéma, c'est plutôt arrivé après Valérian qu'avant.
Oui, moi j'avais vu 2-3 films de science-fiction dans les années 50. Il y en avait 3 d'ailleurs qui sortaient, donc je les avais vus. Ça me plaisait bien, mais en fait c'était plus le western qui me plaisait. Quoi. Donc il y avait par contre tout à faire. Et ce qui me plaisait moi, c'était de faire un travail avec Pierre justement, où on n'allait pas enfiler les bottes de Blueberry ou des trucs comme ça, ou de faire du full polar, du militaire, c'est pas mon truc, j'avais fait le service militaire. Donc la science-fiction était complètement ouverte à l'imaginaire. Mais en plus, nous, c'était de créer une histoire de 30 pages, et 30 pages c'était déjà beaucoup de travail, et eh ben, 40 ans plus tard, on est encore en train de continuer la suite des 30 pages.
Alors justement, au départ, quand vous avez écrit un peu l'histoire de Galaxy City avec donc l'incident Catharsis en 1986, est-ce que vous y avez imaginé déjà au départ vous dire « Ah mince, on va faire une série qu'on va faire, s'il le faut, jusqu'en 86 ?»
Ah non, on m'aurait dit d'ailleurs que je serais au jour d'aujourd'hui en train de vous parler de ça, j'en serais pas revenu. Non, on est parti comme des jeunes mecs qui avaient envie de s'amuser et de faire un truc tout simplement qu'on voyait pas à l'époque. Au fond, on a fait quelque chose que nous, on avait envie de voir. Alors évidemment, en tant que scénariste, comme j'ai senti très vite, parce qu'il y avait des retours, des lettres de lecteurs, on appelait ça à peine des collègues à l'époque, disant « Ah non, mais c'est très bien bon, », j'ai senti qu'il fallait quand même aller un peu boulonner. Parce que on rentrait dans un système qui était très peu codifié, puisque à la différence d'autres bandes dessinées, il n'y a pas de présent, pas de futur, pas de passé, que tout se mélange. Donc j'ai senti quand même comme scénariste assez vite qu'il fallait que je fasse attention à ce que j'allais raconter, mais ça n'a pas été au-delà. Hein.
On a commencé par se balader dans quelques planètes et qui étaient là, pour moi, complètement lâchées, de trouver graphiquement des choses que j'avais pas vues. Et que on ne savait pas trop comment ça pouvait se dessiner, puisque mon gros problème, c'est de représenter quelque chose qui n'existe pas. Donc là, j'avais quand même quelques petits soucis. Ouais, c'est peut-être là où j'ai commencé à perdre mes premiers cheveux.
De nombreux thèmes politiques ont émaillé la série, relativement assez vite d'ailleurs, puisqu'il y a l'interventionnisme dans l'ambassadeur des ombres, il y a le trafic d'armes, il y a la dictature communiste, la dictature militaire, le capitalisme. Est-ce que ces thèmes politiques, finalement, ont été vraiment une part importante du moteur de la série pour continuer ?
Oh bah oui. D'abord parce que Valérian est né dans des années qui étaient politiquement extrêmement chargées, extrêmement dynamiques, extrêmement nerveuses. Il y avait plein d'enjeux. Donc c'était tout simplement un sujet intéressant de parler de politique. Mais pas d'en parler niaisement pour faire du prêchi-prêcha, comme ça a été un peu la tendance parfois en mai 68. C'est-à-dire qu'en même temps, il y avait la possibilité dans Valérian de prendre une distance, de prendre une distance humoristique, mais tout en faisant passer des problèmes qui n'étaient pas forcément du tout abordés beaucoup à l'époque. Hein,
par... Même pas de politique. Parce qu'au début, on me disait « Valérian, c'est vachement bien, mais qu'est-ce que c'est politique ?» Bon, et c'est vrai, c'était politique, mais avec le fait que Alf Lolol, qui reste une grande réussite, eh ben, est probablement le plus avant-gardiste au niveau des thèmes abordés, et graphiquement reste une histoire à lire passionnante, quoi.
Mais c'est vrai qu'on a exploré, en partie consciemment et en partie inconsciemment, tout ce qui allait devenir un petit peu les grands thèmes politiques aussi de la suite. Parce que par exemple, l'écologisme, dans les années 70, c'était pas grand-chose. C'était notamment parce que je crois on connaissait bien les États-Unis, qu'on est revenu en étant plus sensibilisé à ça. Toute la partie féministe, et notamment avec le personnage de Laureline, c'était lié aussi aux luttes qu'on avait pu voir, tout l'antiracisme. C'est parce que c'était le grand mouvement des droits civiques aux États-Unis. Donc Valérian, c'est aussi, même si c'est de la science-fiction, le fruit de son époque. C'est le fruit des années 70 et de tous les problèmes qu'on se posait à l'époque. Comme j'espère on n'a pas été trop maladroit en les traitant, Dieu merci, c'est pas démodé. Et comme la plupart des problèmes n'ont pas été résolus, de toute façon, ça tient toujours la distance 40 ans plus tard, hélas d'ailleurs. Hein.
Vous avez plusieurs fois voulu adapter Valérian en série animée. Vous avez d'ailleurs pas mal expérimenté dans le trucage vidéo sur les techniques qui à l'époque étaient assez avant-gardistes. Hein, pour l'époque, c'était...
Même pour pas dire primaire, quoi.
Et maintenant, donc, la série est au moment où on enregistre. D'ailleurs, elle n'a été diffusée que sur Canal Plus Famille, donc on l'a pas encore vue. Comment vous avez trouvé cette série une fois qu'elle a été produite ?
Très difficile à porter un jugement de valeur sur un truc aussi différent que 40 épisodes de 26 minutes. Donc moi je dirais d'abord l'immense mérite c'est d'avoir après X essais qui étaient inaboutis d'avoir remonté quand même l'opération. Le reste, il y a je dirais de très bons épisodes et d'autres certainement moins bons.
Moi je regarde ça comme quelque chose de totalement extérieur à mon propre travail et qui me touche relativement peu professionnellement puisque c'est du dessin animé pour enfants et que j'y connais rien au dessin animé pour enfants. Donc tant mieux que ça existe, mais c'est tout ce que je peux en dire.
Vous mettez un point final à l'épopée de Valérian et Laureline. Est-ce que c'est une date? Quand est-ce que vous avez dit il faut que là on arrête ou est-ce qu'on laisse ouvert?
Non, c'est nous qui voyons. Moi ça me prend toujours 2 ans à faire un album comme d'habitude. J'arrive à un âge certain où ça va pas trop mal encore, mais et en plus on boucle la boucle de la trilogie. Bon, ça c'est un projet. Après, si on a envie de faire d'autres histoires, on peut peut-être faire d'autres histoires, mais peut-être aussi changer la forme, l'esthétique, l'exploiter autre chose. Et là, le cycle avec l'album va se terminer dans cette dernière histoire, qui va être riche et copieuse. Et puis, on verra bien, on verra.
D'accord, ça reste ouvert.
Bah, l'idée, c'est de s'arrêter avant d'être gâteux.
Alors, à ce sujet, justement, est-ce que c'est pas la peur que finalement Valérian finisse comme Cosmic Roger, c'est-à-dire attablé au comptoir, à noyer son chagrin sur la terre perdue dans un demi ?
Non, le problème, Cosmic Roger me fait hurler de rire à chaque fois que j'en vois un, c'est que justement. C'est pas le risque de Valérian qui devienne comme ça, puisqu'il l'est déjà un peu comme ça, puisqu'ils l'ont transformé, mais c'est partie des premiers indices de que Valérian était comme ça. C'est plutôt que nous soyons comme ça, et que moi, si je suis comme dans l'état de Cosmic Roger, les planches vont pas être terribles, quoi.
Pourquoi vous n'avez pas fait comme Jacques Martin et vous dire ben je veux que finalement nous voulons finalement que la série continue et on forme une équipe?
Non, c'est pas notre truc du tout, ni à l'un ni à l'autre. On est des artisans à l'ancienne et on fait avec nos moyens. Alors après, qu'est-ce qui peut arriver? Les héros sont-ils immortels? Valérian est-il immortel? Je vous rappelle que de fait, Valérian et Laureline, quand même, faudrait qu'ils soient très maladroits pour mourir. C'est-à-dire, ils sont pas immortels, mais comme ils peuvent toujours sauter juste avant qu'il leur arrive un pépin majeur, s'ils s'y prennent bien, ils peuvent durer très longtemps. Bon là, on verra bien si d'autres gens ont envie de raconter leurs histoires. Enfin, je sais pas si on sera là pour le voir. Hein.
Il y a des séries de science-fiction françaises actuellement qui n'auraient pu exister sans l'héritage de Valérian. Que pensez-vous de séries comme Orbitol ou Sillage?
Je trouve ça très bien qu'il y ait plein de petits, disons, enfants de spirituels de Valérian en bande dessinée, c'est très bien. C'est même flatteur. Et puis, bah, le reste, chacun son truc. Moi, je vais dire que pour la continuer et donner la série à quelqu'un, j'ai jamais pu trouver un assistant. Parce que pour moi, Valérian, un assistant, ça n'existe pas. Parce que chaque boulon de la cuirasse d'un costume ou d'une fusée, c'est de la création Mézières, c'est pas de la création d'après le modèle de catalogue de la Redoute de quel truc. Donc, il faut garder l'esprit de Valérian, et l'esprit de Valérian, le jour où je serai froid, eh ben, évidemment, il n'y aura plus d'esprit de Valérian.
En attendant, ce que l'on peut vous souhaiter, c'est que vous continuez à voyager, à participer au cinéma quand même. Vous avez fait énormément de travail de ce côté-là. Et surtout, moi, je me souviens d'une phrase que vous avez dit il y a 10 ans ici à Angoulême quand vous dédicacez. Quelqu'un vous a gentiment demandé si on pouvait vous photographier. Elle a dit oh, oui, allez-y, tant qu'on est jeune et frais.
Eh ben alors rendez-vous dans 10 ans. Alors
c'est tout le mal que je vous souhaite. Ciao. Merci beaucoup, Christin et Mézières. Voilà, et bien évidemment, lors de l'interview, je faisais une allusion. Oh là, c'est une erreur de ma part. Je faisais une allusion à involontaire, je veux dire à Jacques Martin. Bon, on a été rattrapé par l'actualité et c'est un hasard. Entre-temps, on a vu la série qui a été diffusée. Alors, l'ordre de diffusion qui était prévu au départ, c'était sur Canal+ en clair et ensuite sur France 3. Finalement. Elle a été diffusée sur Canal+ Family et il fallait être abonné à Family pour pouvoir la voir. Ça n'a même pas été diffusé en clair, il me semble. Et ensuite, j'ai pu la voir sur Game One où elle a été diffusée dans le bazar le plus total, c'est-à-dire que dans une semaine, c'était toujours les deux mêmes épisodes qui étaient diffusés tout le long. C'est-à-dire qu'ils diffusaient toujours les deux mêmes épisodes et le reste était franchement diffusé en vrac, alors qu'il y a une histoire complète derrière, etc. Et le sentiment était mitigé. Autant les premiers épisodes, on se tire la gueule et on dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Laureline et tout. Bon, ok, on retrouve le côté couillon de Valérian, mais il y avait quelque chose qui manquait. Et finalement, il y avait une histoire qui arrivait, qui était très bien conçue, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'a pas calé, et aussi bien sur le character design qui varie énormément suivant les plans. Il y a quelque chose qui n'a pas allé. C'était vraiment dommage. D'un autre côté, Pierre Christin. Est un prof, a été professeur de journalisme à Bordeaux. Il a aussi été scénariste, notamment avec Enki Bilal. Si vous avez vu le documentaire qui est passé hier sur France 5, il me semble, où on a parlé de parties de chasse. Moi, je sais pas, j'ai pas besoin de le regarder. Hein, de mémoire, je m'en souviens. partie de chasse, ou bien encore où il traite aussi bien de la politique en Europe de l'Est, aussi bien que du principe de l'utopie, ou bien du problème que du licenciement des entreprises. Et d'un autre côté, on connaît Mézières aussi bien, je vais dire, bien évidemment pour Valérian, mais aussi pour ses travaux qu'il a fait pour Hollywood en tant que designer, puisqu'il a travaillé notamment sur le cinquième élément, film américain de
Luc
Besson, à ne pas confondre avec l'autre look et
Luc Perry,
le look ass.
Mais il a beaucoup travaillé avec Hollywood et notamment sur le thème du dessin animé. Ils ont beaucoup travaillé sur des technologies qui étaient à l'époque. Ils ont travaillé avec la tablette graphique dans les années 70. C'est-à-dire l'idée c'était on prend des extraits de dessins, on fait des petits dessins et on fait de l'effet vidéo pour voir si on peut animer ça et produire un dessin animé en étant relativement indépendant, vraiment pour le fun. C'est pour ça qu'il y avait vraiment une grosse attente de la part des fans sur une série, et d'où la déception.
après. Je vous invite à consulter Le Valérian et Laureline, le tome 21. Si vous connaissez la série, sachant que je rappelle que la dernière aventure, c'est la conclusion d'un cycle de 3 tomes qui commençait par Au bord du grand rien. Il faut lire d'abord Au bord du grand rien, L'ordre des pierres et maintenant L'outre-temps pour arriver à cette fin-là. Après, si vous ne connaissez pas, je peux pas grand-chose pour vous. Sinon, vous allez sur supplementweekend.fr et vous allez dans nos chroniques et là, il y a le dossier Valérian et Laureline, ex-agence spatio-temporelle. Le tome 21, L'outre-temps, donc, est sorti hier chez Dargo et on aura peut-être une interview complémentaire qui sera faite en collaboration avec nos amis et camarades d'Actua BD. Je sais pas, Thomas, peut-être un truc? Non, personne. D'accord, merci, on enchaîne.
Oui, bah enfin moi je suis un peu sans voix et parce que je n'ai jamais lu Valérian et je suis passé à côté de ça. Je n'ai jamais lu quand j'étais petit, je n'ai jamais lu que maintenant non plus.
Donc voilà, si vous je doutiez de savoir si j'avais besoin de quelqu'un pour me foutre de si l'absence, excusez-moi, de JB me manque pour avoir quelqu'un à taper dessus. Ben voilà, j'ai Thomas. Du moins pour ce dossier. Pour d'autres, je me risquerais même pas. Luce,
non. Oui.
Toi, c'est pilote, hein, t'étais en plein dedans.
Bah oui, en plein dedans, quoi. Ce que je pourrais juste ajouter, quoi, c'est que l'une des choses qui était intéressante dans Valérian et Laureline, c'était le personnage féminin, justement, quoi. Et pour les jeunes gens que nous étions à l'époque et tout, elle avait certaines formes assez émoustillantes, on va dire.
Mise à nu dans un poster pour Playboy.
Oui, non, mais ce qui était très rare pour l'époque, hein, dans les publications pour la jeunesse, on va dire, hein, d'avoir des personnages féminins majeurs et en plus des personnages féminins agréables à regarder, on va dire, et plus s'y affiniser, bien sûr.
Voilà, les petits rêves humides de Nus.
Ah, et je t'ai pas parlé du Yoko Tsuno.
Ben justement, puisqu'on parle de Japon, entre guillemets, mais cette fois-ci de bande dessinée japonaise pure et dure, Kazuo Kamimura, c'est un auteur que malheureusement on connaît que trop peu en France, qui est mort à 46 ans dans les années 80, avec une carrière écliptique, mais d'un autre côté absolument riche et passionnante et incroyablement forte. Lorsque nous vivons ensemble, le troisième tome qui clôt cette trilogie est sorti dans la collection Sensei chez Kana. Et ça commençait comme une histoire d'amour, une histoire simple d'un jeune couple modeste, mais qui se contente de petites joies quotidiennes. Et au fur et à mesure, l'histoire virait au sordide. Dans le Japon de 1970, les conventions ont encore la vie très dure. Un jeune couple ne peut exister en dehors du mariage. Mais surtout, le Japon est gangrené par ses vices, ses vicieux, ses folies cachées, les vieux qui achètent les filles, les enfants qui couchent avec les parents, les patrons qui n'hésitent pas à harceler leurs assistantes. Bref, Jiro et Kyoko s'aiment, mais leur amour les condamne à la folie, ou du moins, les conventions de la société japonaise feront chavirer leur esprit et leur confiance mutuelle. Animée par des pulsions autodestructrices après un avortement, Kyoko passera un hiver dans un hôpital psychiatrique, loin de tout. Jiro, qui a du mal à faire sa place en tant qu'illustrateur, éprouvera de plus en plus de distance envers celle qu'il a aimée, et fréquente parfois les quartiers où les filles vendre leur charme. Comment va se terminer cette relation entre détestation et amour? Le final fait vraiment mal au cœur, tire des larmes, et la série, incroyablement poignante, vous retournera. La série est d'une expressivité graphique époustouflante pour l'époque. Il y a des idées de mise en scène à l'appel, et on est littéralement happé par le destin sordide des deux protagonistes, mais aussi par le génie du dessin qu'a été Kazuo Kamimura. D'un rien éclaté d'une tache d'encre, il était capable de faire naître une émotion. Durant sa trop courte carrière, il a mis en scène des destins brisés et désespérés, comme le fleuve Shinano ou Lady Snowblood, ce qui inspirera un certain Quentin Tarantino, un diptyque. Cette trilogie est un incroyable roman poignant, et en même temps une démonstration magistrale du 9e art. Kazuo Kamimura, Lorsque nous vivons ensemble, le troisième et dernier tome est sorti chez Sensei chez Kana, dans la collection Sensei chez Kana. C'est un gros pavé, 680 pages, 3 fois 680 pages. Et quand même, on se les enquille pas comme ça, hein. Il faut arriver à accepter la noirceur désespérée de cet album. 12h43 et encore, on n'a pas entamé le cinéma. Mais on va se faire une petite folie, on va remettre un petit peu de joie. Un crossover entre Valérian et lorsque nous vivons ensemble. Valérian et Laureline et lorsque nous vivons ensemble, est-ce que c'est possible? Je dirais oui, mais il faut connaître le clip en question. The Darkness. I believe in a thing called love. Il me faut une saucisse de morteau pour chanter le refrain. I believe in a thing called love, the darkness, permission to land. Oui, permission pour atterrir donnée, avec un clip qui est absolument délirant et kitschissime. Mais de suite.
Le cœur des vierges.
La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround par Ultimatum.
Avec aujourd'hui du film qu'on peut qualifier de péplum, si vous voulez. Donc aujourd'hui on parle d'Agora. Et donc s'il y a
Tiens, Alix.
oui, on y est.
Alors, dans le cas d'Agora, on dit pas péplum, on dit jupette. Parce que c'est grec, Agora.
Oui, mais ça se passe sous
péplum, c'est latin.
Péplum, c'est en latin.
Oui, mais
et jupette, on connaît pas le mot grec.
Oui, mais techniquement, comme ça se passe sous domination romaine, mais à Alexandrie, on devrait le mettre en égyptien.
Bon, péplum, allez. Ok, on avance, merci.
Alors, donc c'est le dernier film d'Alejandro Amenábar avec Rachel Weisz, Max Minghella, Rupert Evans et Michael Lonsdale. Alors, est-ce qu'on dit Lonsdale ou Lonsdale?
Ouais, mais il est franco-anglais.
À moitié français. Oui, oui, ouais. Donc, moi, j'ai toujours entendu ma mère l'appeler Lonsdale.
Ouais, Lonsdale, ouais.
Bon, voilà, Michael Lonsdale, alors. Michael Lonsdale.
Je crois que ça se prononce pas le S dans ce cas-là.
Donc, Lonsdale.
Lonsdale.
Bon. Alors, au 4e siècle après Jésus-Christ, en 390, je crois, à Alexandrie, donc, les administrateurs romains, voyant d'un mauvais œil augmenter le nombre de chrétiens, décident de trancher dans le tas. Mauvaise idée, les chrétiens se révélant trop nombreux, assiègent les païens dans la bibliothèque d'Alexandrie, et chacun tente de sauver ce qui peut l'être des parchemins, enfin ceux qui pensent pas à leur peau, mais ce sont bientôt des pillages ininterrompus des chrétiens qui anéantissent les ouvrages. Au milieu des communautés païennes, chrétiennes et juives, aussi assoiffées de sang et de pouvoir les unes que les autres, la brillante astronome Hypatie tente de déchiffrer les mystères du ciel. Parce que cette époque, ils ne savaient pas trop...
Astronomie, astrologie, d'ailleurs, c'est une confusion qui est restée jusqu'au Moyen-Âge.
Ouais, j'ai dit astronome. Mmh. Et oui, donc en fait, à l'époque, on ne sait pas trop comment la Terre s'était placée, si c'était le centre de l'univers, le Soleil, tout ça. Bon, voilà. Donc c'était vraiment les débuts de l'astronomie. Alejandro Amenábar, bon, c'est lui là, il a commencé, il était tout jeune, il avait fait Thésis, son premier film avec
excellent.
Eduardo Noriega, ouais, sur l'univers du snuff movie, bien prenant.
Ouais, ouais.
Ensuite, il a fait le film que j'adore, qui est
Ouvre les yeux.
Après le Soros avec l'excellentissime Penelope Cruz qu'on voit bien, on va dire, dedans. Un film assez...
Fais gaffe, tu es en train d'exploser le quota de superlatif. Hein.
Oui, je suis en train de baver surtout. Et donc, dans un film à un bon thriller avec le bon petit twist final, et puis qui a même été l'objet d'un remake avec Vanilla Sky, avec Tom Cruise.
Ouais, voilà. Je sais pas, on n'entend plus rien d'un seul coup. Là.
Voilà. on passe sous un tunnel. on a eu ensuite. Bon, le gars.
Et... Non, mais sort du tunnel là.
Ah oui. Alors, ensuite le gars. Bon, il avait fait quand même les deux films qui avaient eu pas mal de succès en Espagne. Donc le petit gars, il va aller aux États-Unis. Il fait à 28 ans juste Les Autres avec Nicole Kidman, qui se trouve être l'un des meilleurs films de Nicole Kidman et de films de fantômes tout court, qui est vraiment excellent aussi. Il a fait Mara d'intro ensuite, film assez lourd, hein, sur le gars qui est paralysé, qui demande juste l'euthanasie pendant des années. Bon, moi je l'ai pas vu, c'est avec toujours géantissime Javier Bardem. Et donc il revient avec ce Agora. Donc si une partie du casting est anglo-saxon, il faut savoir que toutes les types de production quand même restent espagnoles. Donc il est quand même en terrain conquis, si on peut dire. Alors Agora, bon, ben c'est, on va dire, la petite claque de 2010 pour l'instant, hein, l'année commence fort. Alors dans ce film vous avez tout, hein. Vous avez du film historique, du sanglant, vous avez de l'intelligence cinématographique, vous avez du romanesque. Si l'action du film se situe au temps des Romains, c'est pas pour faire juste des combats de gladiateurs et encore un énième péplum avec des gars avec des gros glaives et tout. Bon, c'est en fait cette histoire, cette époque l'a surtout interpellé parce que c'est une manière de décrire quand même, on va dire, la déliquescence d'un monde encore raffiné, avec une classe aisée qui s'intéressait pas mal à la culture, à la philosophie, à l'astronomie. Et le film décrit un petit peu l'époque où ça va basculer dans le début du Moyen-Âge et l'obscurantisme, avec l'apparition justement de la chrétienté, avec les chrétiens justement qui prennent le pouvoir à Alexandrie. Donc voilà. Alors au centre de toute cette agitation, il y a Hypatie. Donc c'est une nana qui a vraiment existé, qui était. Alors il y a le débat, est-ce que c'était vraiment une astronome, plutôt une philosophe, on sait pas trop.
Bah à l'époque on était justement un petit peu universaliste par défaut.
Voilà, ouais, elle était ouais.
À partir du moment où on était aisé, où on faisait partie du clergé, où on avait les moyens justement de s'intéresser aux connaissances, on était un peu obligé d'embrosser de s'intéresser à tout.
Oui, voilà, elle était aussi mathématicienne. Bon, après, c'est vrai qu'elle appartenait pas trop au clergé parce que c'est quelqu'un qui était surtout obsédé par les découvertes scientifiques. Donc, c'est vrai que le postulat du film, c'est que toutes les personnes qui sont dans son entourage se débattent par rapport à leur foi ou à leur leur conversion à la foi dominante, ou etc. La religion est très importante, sauf chez elle, où elle est uniquement obsédée par le mouvement des astres. Donc c'est vrai que c'est une belle opposition pendant tout le film. Et,
mouvement des astres, opposition, bravo. Tu l'as cherché celle-là. Donc continue.
Ouais. Alors donc voilà, bon, c'est surtout un prétexte pour décrire justement le un petit peu le début du Moyen Âge et la fin d'une époque de raffinement. Moi, ce qui m'a vachement frappé dans le film, enfin qui me fait dire que c'est quand même un film très intelligent, c'est que au départ, tu te dis bon voilà, on a le film archétypal, on a la nana qui est cultivée, qui essaie de trouver la vérité, tous les autres qui sont aveuglés par les problèmes de religion et tout. Bon, lui c'est l'enculé, lui c'est le petit gars qui est secrètement amoureux d'elle, donc il va l'aider. Lui c'est plutôt le fou de Dieu qui va être un petit peu le bourrin du film. Et puis à un moment donné, alors le film continue son petit bonhomme de chemin, tu dis bon, les premiers retournements de situation, tu es conforté dans ton idée, puis à un moment donné, il y a plusieurs basculements dans le film, et tu dis, tiens, l'enculé au départ, ben en fait ça va être finalement le meilleur allié de la nana. Et que le gars que t'avais pris en sympathie au départ, ben tu... Ah ouais, non, finalement, c'est pas trop un gars sympa. Et puis, il va être... Chacun est en berlificoté dans ses propres contradictions. T'as le gars qui va se convertir pour exercer plutôt une autorité, on peut pas qualifier de bienveillante, mais qui va quand même essayer de régler les problèmes avec un petit peu de pacifisme dedans. T'as le gars qui était ancien esclave, qui est affranchi, et tu te prends de sympathie pour lui parce que t'as l'impression que ça va être le personnage principal, mais en fait pas du tout, parce qu'il va sombrer du côté obscur, puisqu'il va justement épouser la foi des Parabolani, qui sont des espèces de moines soldats complètement fous, et qui va embrocher plus que de raison des hommes qui avaient juste qui faisaient juste des cultes païens. Donc à un moment donné, les frontières se brouillent et tu dis ça, c'est plus intéressant que tu pensais. Après t'as je vais pas tout raconter, mais vraiment t'as les mêmes personnages d'une minute à l'autre qui peuvent avoir une scène où ils se révèlent sur leur meilleur côté, des gars qui sont heureux de retrouver des vieux amis, etc. Et puis dans la scène d'après, qui vont être juste des fanatiques. Et que tu vas voir finalement le fantasme l'emporte sur justement l'humanité. Alors c'est plein de personnages pétris de contradictions. T'as la Hypatie qui est le personnage central, donc Rachel Weisz, qui est juste elle qui est immuable, qui est la source de lumière du film. Elle va juste pas sortir de son chemin qui est tout tracé, qui est la découverte de la vérité. Et tout autour, ça s'agite. Et voilà, c'est ça qui est super intéressant. Moi, au départ, bon, le côté archétypal, bon, c'est pas vraiment gênant parce qu'on en avait déjà parlé ici avec pour Avatar, par exemple, qui était un petit peu plombé par ça. Mais finalement, quand c'est bien mené, c'est pas si gênant que ça. Et en plus, le film se révèle beaucoup plus intelligent et beaucoup plus finaux, et tu te prends un peu à rebousse-poil. Donc c'est de ce côté-là, moi, je conseillerais extrêmement de voir le film parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis surtout, si vous avez aimé des films comme Kingdom of Heaven, justement, qui malgré certains personnages qui étaient vraiment noirs de chez noir et vraiment le bad guy, c'était surtout des personnages qui étaient tiraillés aussi, et que tu sentais que dans les deux camps il y avait quand même des personnages très intelligents qui essayaient quand même de limiter les massacres. Et Kingdom of Heaven se révélait assez fin de ce côté-là, et c'est aussi le cas d'Agora. Au niveau casting, Rachel Weisz impeccable, Michael Lonsdale pareil, tout le casting, on va dire, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. C'est que des... C'est vraiment, tu crois que ce sont des moines soldats, c'est des gueules, et c'est tout simplement parfait du début à la fin. Donc Agora, pour moi, c'est l'excellente surprise de ce début d'année, Xavier.
Oui, non, mais mon regard pas, je l'ai pas vu.
Non, mais je croyais que tu voulais dire quelque chose.
Non, 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 je replaçais mon micro et tout. D'accord. Etc.
Donc voilà, donc Agora d'Alejandro Amenábar, il y a quelqu'un qui va pas prendre la parole, mais qui est ici, qui l'a vu, et qui a, je pense, été assez emballé. Juste un petit bémol, c'est un film qui se passe au temps des glaives et des lapidations. Donc il y en a pas mal. Et il faut avoir mangé un peu avant. Faut pas manger un peu, ouais, je veux dire, pas mal de temps avant pour avoir bien digéré, parce que s'il y a pas mal de... Des fois, à un moment donné, bon, la caméra est pas trop loin de ce qui se passe après quand il y a des cadavres.
Ça va, tant qu'on voit pas les vers et les asticots.
Ah, il y a une scène...
Bon, d'accord, ok, d'accord.
Des fois, il y a des plaies qui se referment pas très bien, voilà.
Okay. Donc voilà, Agora. Juste un truc précis. Alors c'est un film d'abord que j'ai pas dit que c'était, qui avait été présenté hors compétition au Festival de Cannes cette année. Et c'est un film à mon avis qui va pas rester longtemps. On en parle pas beaucoup. Quand tu vas sur Allociné, il y a pas beaucoup de trucs dessus. Il y a pas beaucoup de presse non plus. Donc à mon avis, si vous voulez le voir, faut pas trop tarder. Voilà, c'est juste un conseil. Donc qui est malgré tout, le film est sorti il y a 10 jours. Hein, donc vous pouvez encore y aller, mais ne tardez pas trop. Agora d'Alejandro Amenábar avec Raquel Weiss, Max Minghella, Robert Evans et Michael Lonsdale.
Merci Thomas. C'est pour une fois, je l'avais pas maltraité dans l'intro, dit une vacherie pendant le générique.
Non, mais on en a parlé aujourd'hui.
Et il est là, voilà.
Le revenant.
Non, voilà, il y a le JTJB. Bonjour.
Bonjour.
Oui, alors du sport.
Voilà, ça marche. Bonjour.
C'est pas ma faute pour une fois. Voilà. J'espère que tu vas bien et tu arrives juste à temps puisque il est 13h dans quelques secondes et que donc Duce va faire ses chroniques cinéma. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite, ceci dit, une bonne année, bonne santé au nom de moi, de toute l'équipe et tous les auditeurs qui râlaient.
Itou.
Duce ?
Quand les auditeurs râlaient parce qu'ils étaient pas là ou parce qu'il
y a pas un morceau de musique qui est prévu là ?
Non, ouais. Tu m'avais pas prévenu là-dessus, donc.
Bah non, mais je remarque que t'as passé deux Arkness, mais l'autre.
Guy Cole Gerald, tu veux un petit break musical, d'accord. Un gars appelé Gerald, a girl called Gerald, featuring Louise Rhodes, Humanity, extrait de la compilation du label K7. Cassette. Voilà. These days I find I'm wasting my time on all the little things that shouldn't concern me. Where my heart with such confused emotion. Letting anxiousness in, where peace should prevail. It's just my humanity getting the better of me. It's just my humanity getting the better of me. Thank you. A Girl Called Gerald featuring Louise Rhodes, Humanity. Mais de suite maintenant, c'est la loi des séries.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries.
Comme promis, bonjour Duss.
Rebonjour.
Alors, est-ce que t'as suivi le grand Why aux États-Unis?
Non, de quoi parles-tu?
Non, des talk shows du soir.
Ah non.
Où Jay Leno, finalement, il a fait une audience comme prévu, mais c'est le chiffre d'affaires publicitaire qui a chuté, et là, ça a pas plu du tout. Donc, du coup, on le vire, on a fait un bazar. Et sa chambre. Donc, hier, c'était la dernière de Conan qui se barrait, et il a fait le pari, c'était de faire des gags, qui étaient très drôles, parce qu'ils coûtaient immondément cher. Donc je crois que le record c'était 3,6 millions en achetant un trotteur qui a gagné plusieurs prix d'équitation et en le faisant regarder en pyjama en soie un extrait du Super Bowl. Et il disait que ce gag, qui a duré que 10 secondes, a coûté 3,6 millions de dollars. Genre, sale gag, hein.
Non, mais Split Weekend, avec le budget qu'on a, quand on veut,
on
fait
ça. On peut pas se le permettre, ça.
Non, mais quand on veut, on fait des trucs comme ça. Nous, on est des fous, hein.
Oui.
Alors, attends, demain, dimanche, vous faites quoi? Ben, paf.
JB rigole de la vache.
Ah, non, mais j'accepte.
Tu te mets en pyjama en soie, c'est ça?
Non. Moi, j'ai dit que je filmais. On peut attaquer par un état des lieux qui explique un petit peu la déliquescence du public télévisuel français au vu des résultats du clash frontal de samedi dernier entre qui peut battre Philippe Lucas et Philippe Bouvard.
Oh bah c'est pas les naveuves, hein.
Et c'est Bouvard qui a gagné, figure-toi, hein, meilleure audience de la soirée de samedi dernier. C'est Bouvard qui a
C'est la deuxième fois que France 2 double TF1 en faisant une soirée hommage à l'une des stars de TF1.
Ouais, non mais bon,
c'est beau, hein, après Mimi Mati, ouais. Bouvard.
Oui, mais en quoi ça prouve la déliquescence? Enfin, qui veut battre Philippe Lucas, c'est pas non plus.
Bouvard fait l'une des émissions radio les plus écoutées après le Super Bowl week-end. Hein.
Ah bah certainement, hein, de toute façon, quoi. Mais enfin bon, écouté par qui, c'est ça le problème, quoi. Hein, c'est surtout ça le problème, quoi.
Non, mais on sait qu'il y a un gros problème.
C'est le fait de se retrouver avec deux chaînes qui vont capter, on va dire, 85-90% des gens qui sont devant leur télé le samedi soir. Bon, c'est là qu'il y a un problème.
Mais non, voilà. Mais on sait qu'il y a la TNT. Et face à ça, et ben, il faudra qu'un jour ils se fassent une raison.
Oui. Oui, mais.
On peut passer à autre chose.
Oui, mais oui,
parce que
mais
Bouvard,
la TNT.
Ça m'enchante pas.
Oui, mais la TNT. Quand on entend en ce moment les grandes chaînes.
Ce soir.
Quand on entend en ce moment les grandes chaînes pleurer parce que leurs audiences sont érodées justement par la TNT qui commence à monter. Hein. L'exemple le plus flagrant, c'est TMC. TMC qui est une filiale de TF1, faut le souligner, hein, et qui marche vraiment très très fort, qui arrive à avoir des résultats qui sont tout à fait honorables pour une chaîne de la TNT. Hein, mais sinon,
Soir, alors attention, on a le plus grand cabaret du monde et les Energy Music Awards, puisqu'il y a l'ouverture du festival Midem, festival musical à Cannes.
Yes.
En face.
En direct.
Energy
Music Award en direct.
Oui, c'est en direct. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils vont encore une fois se planter dans le magnéto, un truc comme ça, que l'émission va partir en arrière en plein milieu et tout ça. En face, t'as Navarin, Les Simpsons, Du Catch, Robin des Bois,
Sauveur Giorgiano aussi.
Et l'école des fans. L'école des fans qui, quand même, se fait massacrer et étrier par la critique et disent comment Gulli multiplie par 5 leur audience en soirée, c'est facile. Il suffit de comparer par rapport à l'école des fans la soirée du dimanche. Je crois qu'ils ont fait une audience de 50 000 ou 70 000. C'est...
Ah,
c'est...
Ouais,
c'est pire qu'Arte. 70 000 téléspectateurs.
C'est pas beaucoup.
Même la chaîne Sénat fait mieux.
Mais attends, comparons ce qui est comparable entre une chaîne de la TNT qui est pas capable partout et Arte qu'on trouve partout. Allez, on zappe, hein.
Ouais. Passons aux choses sérieuses. Alors comme tu m'as pas trouvé le générique, on démarre direct
comme ça. Désolé.
Avec Non, mais ça ira très bien comme ça, quoi. Avec
sinon, c'est Thomas qui le chante. Hein.
Nouvelle saison inédite de. Voilà.
C'est celui du train, c'est pas le dessin animé des.
It's a train, no, it's a plane!
Exactement.
It's Superman. It's...
Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird.
It's a plane.
It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another...
Superman lave encore plus blanc votre linge, tout en respectant les couleurs, et en plus répare les accros en même temps.
Superman, donc, je vais vous parler de Smallville qui attaque donc sa saison 8.
8 jours à dos.
189 épisodes déjà. Et cette série diffusée aux États-Unis par la chaîne CW, eh bien, vu qu'elle fait un score encore honorable, on va dire, hein, de 4 à 8 millions de téléspectateurs, de fidèles, hein, qui suivent encore cette cette série de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, CW a décidé de programmer une 9e saison.
Oh là, hein, de, parce qu'on parlait de chaîne la TNT, mais CW, c'est un network relativement récent, et qui a toujours eu du mal à s'installer, hein, de toute façon.
Qui nous a quand même sorti quelques petites perles.
De bons trucs, oui.
Hein,
oui.
Y a pas de problème.
C'est
donc,
Beverly Hills.
Mais ils vont être obligés de faire intervenir jeune toute la galaxie de DC.
Alors, ouais, justement. Bon, justement. Alors bon, ben, comme ça fait 8 saisons qu'on est là et qu'on voit Clark Kent au beau milieu de ses parents et ensuite au lycée et ensuite ses premières amours et tout, et on se demande quand est-ce qu'il va enfin être Clark Kent, Superman, quoi, c'est-à-dire vraiment Superman avec la cape, tout le bordel et tout. Eh ben, c'est peut-être pas encore pour ce coup-là.
Oh putain.
Mais par contre, on nous a déjà abreuvé de nombreux personnages secondaires entre guillemets, c'est-à-dire bah également des super-héros en devenir, oui, Aquaman ouais, toute la bande, hein. Bon, ça le fait quand même.
Un amateur, un martien, transformiste.
Ça le fait quand même. Hein, c'est pour cela que c'est une série qui est encore beaucoup suivie. Cette série créée par Alfred Go et Charles Millar.
Et est-ce qu'il y a toujours Lex Luthor?
Non, Lex Luthor, il est parti. Hein, c'est bon, il y a plus. Hein, de
il est
toute
parti
façon,
faire
quoi.
Le mal.
Bon,
il faut
dire.
Côté.
Oui, non, parce que bon, il faut dire que l'interprète Michael Rosenbaum en avait un petit peu ras la casquette du rôle.
J'en avais marre d'être chauve. Ça va, c'était il y a 12 ans la Coupe du monde de foot, ras-le-bol.
Alors, Superman a été interprété successivement par Christopher Reeves, ça tout le monde le sait, 4 fois. Brandon Root également dans le film de Singer, Dean Cain à la télé.
Excellent.
Dans Lewis et Clark, c'était pas mal du tout. Oh. Hein, et là, bon bah ok. Bah,
c'est une sitcom.
Moi j'aimais ouais. bien. C'était là, orienté
sitcom.
À love, mais ça fonctionnait bien.
Quoi, le Dinken, Lois and Clark?
Ouais.
Non, vraiment très bien. Non, moi j'ai bien apprécié.
Et Peter Yatcher, parfait complément de Dinken.
Non, impeccable. Hein. Il y a rien à dire sur cette série. Bon, c'est pas un monument, mais bon, c'est tout à fait regardable. Hein. Ça, il y a pas de problème. Alors, dans cette nouvelle saison.
Personnellement, je mets bien. Comment il s'appelait déjà, celui dans le film là?
Lequel? Brandon Root?
Non, celui avant.
Christopher Reeves?
Non, je préférais le père Reeves, celui qui faisait les céréales des années 50. Bon, j'ai pensé
Oui, d'accord, ok. Ouais. Oui, mais c'est également le même générique que celui des Fleischer, hein, je te signale.
Oui, c'est vrai.
C'est le même générique. Des nouveaux personnages, donc Tess Mercer, interprétée par Cassidy Freeman, Oliver Queen par Justin Hartley, et dans cette saison, eh bien, enfin, Clark Kent, il est sorti du lycée, ça y est, c'est bon, quoi. Et il va rentrer au Daily Bugle.
Ah.
Enfin.
Mais il y
était
pas déjà.
Il y aura également les prémices.
C'est des piges déjà, non?
Oui, il me semble. Hein.
Ouais, non, mais là, il entre vraiment.
Il rédigeait des articles Société Presse.
Là, embauché, et il va occuper le boulot que Clark Kent occupe dans la série DC, quoi. On verra également apparaître quelques personnages de la Ligue des Justiciers. Bon, la traduction française est pas top, hein, parce que Justice League, Ligue des Justiciers, c'est pas la même chose. Mais bon, hein, comme on est en France, on va appeler ça comme ça, quoi. Donc, Smallville, ce sera à partir de vendredi prochain à 20h40 sur TF6. Petit rappel des trucs, c'est quand même la série qui a cartonné lors de l'épisode pilote, 21 millions de téléspectateurs, oui, aux États-Unis. Ça, c'est énorme. Hein, c'est y a pas beaucoup de séries qui, à leur pilote, peuvent afficher un tel score. Hein. Même Heroes, Lost, ils étaient un petit peu en deçà, quoi. Donc, vous voyez que.
Bien, et pourtant, ils avaient eu un gros battage. Mais c'est...
Et pourtant, ouais. Et pourtant. Hein.
Et pourtant. C'est un truc qu'on ne peut pas imaginer en France, justement, le volume publicitaire qui est déployé en général pour une ouverture d'une série. C'est voilà. Gigantesque.
Donc Smallville, hein, pour les aficionados, c'est à partir de vendredi prochain sur TF6 à 20h40. À présent, encore de la rediff, et là, eh bien, j'ai appris, j'avais pas fait le calcul, et puis bon, je m'en foutais un petit peu, quoi, faut dire, quoi, que, eh bien, cette année, on va célébrer le 65e anniversaire de la libération des camps de concentration. Bah ouais, 45-2010, 65, c'est facile. Et donc, eh bien, à la télé, on en profite, et on diffuse ou on rediffuse des séries, des documentaires qui ont trait justement à cet aspect de l'histoire.
150e diffuseur de Shoah.
Alors,
tu crois pas si bien
avant
dire.
Avant Shoah.
Parce que Shoah, justement, n'avait jamais été diffusé en entier.
Ouais, ouais, non, non, mais attends. Ouais. Attends, d'abord, on va parler de la fiction.
Je vais pas griller.
De la fiction, parce que, comme d'habitude, les Ricains sont toujours les premiers sur la fiction et sur la fiction historique. Hein. Ils nous l'ont fait avec leur propre histoire, Racine, et des petites choses comme ça, le Nord et le Sud. Bon, bah, très tôt, ils se sont dit, ok, quoi, faut qu'on lave notre linge sale en famille, et même en dehors de la vie, pourquoi pas, allez, les gars, et tout. Et en 1978, sortait sur NBC Holocaust. Alors, Holocaust, c'est de la fiction. L'histoire, elle est basique, on va dire. C'est le destin croisé de deux personnages. L'un va devenir nazi, l'autre va être sous sa botte, hein, va être est juif, donc va s'en prendre plein la gueule. Et à l'époque, ça avait beaucoup remué dans les brancards, hein, surtout du côté des associations juives. Pourquoi ? Parce que bien elle trouvait que c'était manquer de respect aux gens qui étaient partis de parler justement de ce genre de choses-là et de fictionner, hein, de fictionnaliser justement l'histoire et cette histoire en particulier. Donc il y a eu pas mal de, mais pourtant eh bien ça avait été un plébiscite quand même. 7 Emmy Awards pour cette série qui est une mini-série en fait, hein, puisque bon ce sont 4 téléfilms. Enfin c'est la forme la plus fréquemment utilisée pour la diffusion. Le réalisateur Marvin Chomsky, le scénariste Gerald Green, les deux ont eu un Emmy en 78, avec dans les rôles principaux Fritz Weaver qui est, rappelez-vous, le personnage principal de Duel, et qui joue le rôle du papa, oui, le moustachu, et c'est là il joue le rôle de papa de James Woods, qui est donc l'un des héros principaux, hein, celui de Marty Weiss, donc hein, le jeune juif, hein, qui va un petit peu mal finir. On a également Meryl Streep, Emmy également pour Meryl Streep, Joseph Bottoms, Blanche Baker, qui elle est la fille d'une rescapée des camps, qui a également obtenu un Emmy, Sam Wanamaker. On a Michael Moriarty qui a également eu un Emmy, Jan Holm qui joue le rôle de Himmler, David Warner qui joue le rôle de Reinhard Heydrich, Robert Stevens, rappelez-vous la vie privée de Sherlock Holmes. Tout ça donc se retrouve dans Holocaust qui sera diffusé par Paris Première demain soir et lundi soir. Alors c'est 4 parties d'1h40 chacune, donc demain les deux premières parties et lundi les deux autres parties à partir de 20h35 sur Paris Première Holocaust. Et venons-en, on en a parlé avant de Shoah, venons-en à parler de Shoah, donc diffusé par Arte le mercredi. La première partie c'était mercredi dernier, la deuxième partie sera mercredi prochain 20h35. Attention, c'est du lourd, prévoyez de quoi manger, un petit bidet pour pouvoir pisser, parce que ça dure 4h40. Vous en avez jusqu'à pratiquement 1h du matin.
Mais 4h40, moi j'ai jamais vu Shoah. Est-ce qu'il y a plusieurs parties après?
Non, là c'est la totale. C'est deux fois 4h40 en fait. Il y a eu 4h40 mercredi dernier, 4h40 ce mercredi.
Ça c'est le deuxième épisode.
Effectivement, voilà. C'était scindé en plusieurs épisodes, mais le tout faisait 9h-9h30 de diffusion.
Bah ouais c'est ça, hein, de toute façon quoi. Alors Shoah a sorti en 85 donc il faut signaler quand même que pas mal de gens, mais là c'est ce que je reproche un petit peu pas mal de gens qui se réclament de ce documentaire la Shoah pour expliquer justement les choses et voir quelle est leur vision des choses par rapport à cet aspect de l'histoire. Mais il faut dire également que je viens de vous dire que ça dure 4h40 plus 4h40, donc il faut quand même se le taper. Et il faut dire que comme c'est un documentaire assez doux, assez lent, on va dire. Hein, il y a, c'est une suite de témoignages, hein, de témoins directs qui sont soit interviewés par Claude Lanzmann lui-même, soit qui racontent plus ou moins leur histoire. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le documentaire, Lanzmann est allé sur les lieux où s'est passé où s'est passé la Shoah, c'est-à-dire Auschwitz, Treblinka, Belzen, Sobibor, c'est-à-dire les endroits en Pologne où il y avait ces camps d'extermination. Et le documentaire, eh bien, va suivre la ligne historique logique, hein, c'est-à-dire le début, qu'est-ce qu'il y avait. Alors d'abord les rafles, on va expliquer comment se sont passées les rafles. Ensuite, eh bien, comment ont été transportés les Juifs. Ensuite, où sont-ils arrivés. Comment les Allemands ont organiser l'extermination des Juifs, et tout cela est très linéaire, suit son chemin. C'est-à-dire que là, au bout de 4h40, mercredi dernier, on en est arrivé à, eh bien, ça y est, les Juifs sont arrivés dans les camps et tout. Les Allemands merdent encore un petit peu au niveau de l'organisation et tout, quoi. Alors, il y a des scènes, bon, ça peut paraître rigolo maintenant, quoi, mais enfin bon, on a des témoignages où justement, au début, quand ils essayaient de faire cramer les gens et tout, mais après, ou de gazer les gens, mais après, les cadavres, il fallait les entreposer. Alors, au départ, ils les mettaient dans des fosses et tout, mais tout au début et tout, quoi, ils attendaient un petit peu, ils étaient pas assez nombreux pour déplacer les cadavres, puisque bon, c'était de l'extermination en masse, et que donc il y a des trucs, bon, c'est ça paraît rigolo comme ça, c'est pas tellement rigolo, enfin, même les SS qui étaient donc qui avaient leur casernement, quoi, qui était dans le camp, ils sentaient la puanteur des cadavres et tout, donc ça les emmerdait et tout, et donc ils ont dû gamberger pour pouvoir justement faire des trucs et tout. Alors on apprend que les fours que l'ensemble de l'infrastructure pour l'extermination des Juifs a été construit par les Juifs, hein, c'est-à-dire c'est eux qui étaient obligés de travailler, de construire les fours, de fabriquer les portes, de tout faire, quoi. C'était que bon, au début ils faisaient chauffer les fours un petit peu de trop, donc il y avait des fours qui ont explosé carrément. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que bon, ben, il y avait trop de Juifs qui arrivaient, donc ils n'avaient pas assez de capacité d'accueil, on va dire, entre guillemets, quoi, pour traiter le problème, hein. Alors c'est vraiment vraiment prenant, hein. Lanzmann ménage dans le documentaire, il n'y a pas uniquement que des c'est pas uniquement une suite de témoignages, il y a également quelques parties qui sont un petit peu plus douces histoire de faire retomber la pression, hein, c'est-à-dire que bon, bah, on va avoir droit à des travelling très lents sur les endroits où s'est passé le truc. Bon, bien sûr, Lanzmann filme en 80 dans les années, début des années 80, fin des années 70, donc la nature a un petit peu changé et tout. Alors c'est assez rigolo parce que bon, il y a des moments où on a
utilisé le mot rigolo depuis tout à l'heure.
Ouais, non, mais bon, il y a des moments où on a différents témoignages qui concernent la même chose et des témoignages qui sont pas forcément concordants. C'est-à-dire, il va y avoir ce qui est intéressant, c'est que bon, bah, il va justement, il retourne à Auschwitz, il retourne dans ces endroits-là. Auschwitz, Oświęcim en polonais, c'est un village, relativement grand, on va dire. Et donc, il va aller voir les gens qui étaient là à l'époque, qui était un peu plus jeune, il va leur demander, oui, mais vous étiez là, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui se passait, puis bon, alors là, les Polonais qui, bon, bah, eux étaient en dehors et tout, mais étaient quand même au courant, savaient ce qui allait se passer, prévenaient les Juifs qui voyaient passer dans les trains, leur dire, vous allez mourir, enfin bon, alors que la plupart des Juifs qui arrivaient dans les trains, il y en a même qui arrivaient dans des trains, très classe, hein, des pullman, comme ils disent les Polonais, quoi. C'est-à-dire que bon, ben, on a la vision du wagon à bestiaux et tout. Bien sûr, la majeure partie des convois, c'était des wagons de bestiaux. Mais il y a également, surtout pour les Juifs qui venaient des pays occidentaux, des pays de l'Ouest, la France, la Belgique et tout, eh bien, c'était les Juifs qui étaient un peu plus aisés par rapport aux Juifs qui a été raflés dans les différents ghettos polonais. Et là, ben, ces Juifs plus aisés, ben, eux, ils voyageaient dans des trucs de luxe et tout. Il y a même à un moment le témoignage d'un Polonais qui dit, oui, j'ai même vu une femme quand elle est descendue du train à l'arrivée du camp qui s'est remaquillée, qui s'est repoudrée et tout, alors qu'elle savait pas du tout ce qu'il attendait. Enfin bon, c'est des trucs assez renversants, assez bouleversants quand même. Et le truc, c'est que bon, bah, on se laisse prendre dans cette suite de témoignages ok, on n'en ressort pas tout à fait indemne de toute façon, hein, parce que c'est traité de manière pas désinvolte, mais de manière très 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 légère, hein. Il n'y a pas du tout de pathos dedans, on ne rajoute pas dans le côté dramatique. Lanzmann fait les choses vraiment très très bien, et là de ce côté là là c'est quand même un monument. Par contre bon bah là justement par rapport aux gens qui se réclament de ce film, qui disent oui mais regarde dans la Shoah et tout quoi, je me demande si beaucoup de gens ont vu le film dans leur intégralité, parce que bon c'est quand même très 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 lourd à digérer. Et là bon bah on peut quand même reconnaître Carter a bien fait les choses en diffusant le film en deux fois quoi, en deux fois quatre heures. Avant c'est vrai que les diffusions étaient plus parcellaire, hein, c'est-à-dire que on remontait et on faisait des séances qui faisaient un petit peu moins de deux heures, quoi, avec bien sûr par épisode, quoi. Mais bon, bah c'était quand même un petit peu édulcoré. Il y a certaines parties, je pense en particulier aux séquences où on ne voit rien, hein, c'est-à-dire que bon, bah ok, on a la caméra qui est sur un travelling qui est montée sur la voie de chemin de fer, hein, qui va arriver, quoi, avec la fameuse porte d'Auschwitz et tout, la porte qu'on passait avec la barrière. Arbat Nightfry, enfin bon, l'image que tout le monde connaît pratiquement. Je pense que ce sont genre d'images qui ont été justement un petit peu sabrées ou un petit peu raccourcies. Alors que là, dans cette version qui est la version intégrale, eh bien, ces travelling sont très lents, peuvent durer une minute et demie, quoi, où il n'y a rien, il n'y a pas de commentaires, il n'y a que dalle, hein, il y a juste l'image comme ça qui avance. On avance tout doucement dans la forêt, sur les rails, et puis bon, on débouche sur un truc. Ah, bon, d'accord, on y est. C'est très fort, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Même plus, parce que vraiment c'est très très intéressant. J'en avais vu quelques parties, mais jamais en entier. Là, bon bah ok, je me suis fait la première partie, je me ferai la deuxième partie mercredi prochain sans problème, hein, parce que là c'est très très fort, hein. Et ça vaut vraiment tous les films et toutes les fictions du monde, ça y a pas de problème, hein. À replacer dans le contexte, parce que depuis, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. L'histoire a fait quand même pas mal de progrès. Il y a eu quand même pas mal, hein, de révélations par la suite, hein, quand même affiner un petit peu la chose, mais ça reste quand même un des documents capitaux, hein, en ce qui concerne cette période de l'histoire. Voilà, donc c'est Shoah de Claude Lanzmann, qui est diffusé la seconde partie, 4h40, c'est mercredi prochain à partir de 20h35 sur Arte, 4h40 sans aucune interruption. Le film à présent à la télé avec de tout.
J'aime bien le stand des abusés.
Après qu'il ait bien placé l'ambiance, tu vois, bien lourd, et tout le reste est là. Boum.
Non. Ce soir, c'est vrai que ce soir, c'est pas top, hein.
C'est vraiment
pas trop top, quoi. On va commencer.
Le western du vendredi.
Le western du samedi. Alors, si vous avez bien suivi, il y a 15 jours, qu'est-ce qu'il y avait sur RTL9?
Il y avait l'appel Plata. Non, c'est pas. Sabata.
Voilà. Samedi dernier, c'était.
Le retour de Sabata.
Voilà. Et ce soir, qu'est-ce qu'il y a?
La vengeance.
On continue. Au revoir, Sabata.
Adios, Sabata. Toujours par Gianfranco Paolini. Mais par contre, Lee Van Cleef était plus disponible. Et donc, c'est Yul Brynner qui le remplace. Bon, il fait un petit peu n'importe quoi. Et on se rend compte. On se rend compte que bon bah c'est peut-être le film qui de trop dans la série des Sabata, parce que bon bah Yul Brynner est venu, bon bah c'est sympa quoi, il est venu remplacer Lee Van Cleef, mais c'est plus du tout la même chose. C'est vraiment bon bah n'empêche que bon Yul Brynner c'est Yul Brynner, hein, y a pas de problème, hein, il remplit son boulot, mais c'est pas la même chose quoi. Donc voilà quoi, ça le fait quand même un petit peu moins. Bon, si vous avez pas vu les autres, vous pouvez le regarder, il n'y a pas de problème, hein, c'est quand même un bon petit western spaghetti. Sinon, ce soir sur...
Code Tomato, allez, Tomato y carne.
Ce soir sur France 3 à 22h35, Blade Runner de Ridley Scott, dans la version Director's Cut, s'il vous plaît. Hein,
ouais, mais laquelle?
Sympa, quoi. Bah, juste...
Ah oui, c'est vrai qu'il en a sorti deux, Director Scott.
Bon, à mon avis, c'est celle qui a été vendue dans le commerce avec la nouvelle sortie
la plus récente, là.
DVD. Là,
ouais. Ouais. Attends, autant vérifier de suite, quitte à avoir le sous le nez.
Demain, sur RTL 9, à 20h35, Mémoire suspecte. De John Dahl en 96 avec Ray Liotta, Linda Fiorentino, Peter Coyote, Christopher McDonald, King Cattrall. John Dahl qui a commencé sa carrière par un film excellent, un polar qui s'appelle Kill Me Again avec Michael Madsen, Val Kilmer. Laisse tomber, excellent. Il récidive avec Red Rock West.
Avec Cage.
Il nous fait Last Seduction. Bref, on se dit bah c'est bon.
Les joueurs.
Le mec, il va nous tuer quoi, tout au long de sa carrière et tout. Et quand est sorti Mémoire suspecte, les gens se sont dit bon attends c'est quoi ce truc, c'est plus du tout la même chose par rapport à ces espèces de polars un petit peu noirs, un petit peu déjantés comme ça, quoi, qui nous avait fait juste avant, que je viens de citer. Et pourtant, ça fonctionne quand même vachement, quoi. Mémoire suspecte. Moi, je suis désolé. J'aime bien le film de toute façon. Donc, c'est demain soir sur RTL9 à 20h35. On a également demain soir sur Direct 8 à 20h40 Le Crépuscule des Aigles de John Guillermin avec George Peppard, James Mason, Ursula Andress, Jeremy Kemp, une histoire de combat aérien pendant la Première Guerre mondiale. Canal Jimmy nous fait un petit Bloodsport à 22h20 soir. Oh oui, quand même, il en faut un quoi.
Canal Jimmy, putain, j'ai pas cette chaîne, j'ai jamais vu Bloodsport.
Hein,
je sais. C'est parti des films que j'aurais dû voir et que je n'ai pas vu.
Bon, je t'invite à manger demain soir. Sur TCM, soirée Michoum avec trois films, trois tueries carrément quoi. À 20h40, La Nuit du Chasseur. Bon, c'est pas la peine d'insister. Hein. Michoum, Lillian Gish, Shelley Winters. Bon, Charles Lofton. Enfin bon. Pff. Ensuite, un Michoum moins connu de La Griffe du Passé de Jacques Tourneur en 47 avec Jane Greer. Jacques qui est le fils de Maurice. Maurice Tourneur, Cat People, les zombies. Aïe, 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 aïe. Et ça parle de cinéma. Bon, et on termine
C'était ta période, ça.
Non, je t'ai pas né encore.
Tu vois, les gens qui nous parlent de cinéma, c'est que des commerciaux. Ils s'en foutent, ils vendent du DVD.
Tout à fait. Et à 23h55, Les Nerfs à Vif. Cape Fear, la version originale de Jack Lee Thompson, Gregory Peck et Robert Mitchum, un des meilleurs rôles de Mitchum avec La Nuit des Chasseurs. Enfin bon, Mitchum, c'est difficile de dire quel est son meilleur rôle parce que bon, franchement, Jack Lee Thompson,
il déchire.
Non, mais c'est une latitude quoi. Je continue à appeler ce mec Jack Lee Thompson alors que le J c'est John Lee Thompson. Mais enfin, c'est vrai que Jack c'est le diminutif, c'est le truc familier pour dire John parce que John Kennedy, ses potes l'appelaient Jack aussi. Jack Lee Thompson qui a fait l'année précédente Les Canons de Navarone et qui avait fait également La Conquête et La Bataille de la Planète des Singes. Entre autres, dans sa filmographie. Sur FX à 21h, Booba Hotep de Don Coscarelli. Excellent.
Très drôle.
Excellent. Elvis Presley avec John Kennedy qui chasse les fantômes. C'est magnifique. C'est excellent.
Les fantômes
avec,
ou les zombies
Ou les zombies. Enfin,
c'est une momie.
C'est une momie, quoi. Bruce Campbell, excellent. Le regretté Ossie Davis en John Fitzgerald Kennedy. Excellent. Enfin bon, si vous n'avez jamais vu celui-là, ça vaut son pesant de cacahuètes.
Qui est noir en plus.
Lundi, hein. Oui, bien sûr.
Mais il faut avoir vu le film.
Alors lundi sur M6, ils se sont dit on va vous foutre du lourd, il y a pas de problème. Star Wars épisode 1, menace fantôme, suivi de Alien le 8e passager. Comme ça.
Ils viennent tranquille. D'acheter les droits, ils viennent de passer l'intégrale sur Paris Première.
Tranquille quoi. Sur RTL9 lundi à 20h35, L'Homme de l'Ouest d'Anthony Mann en 58 avec Gary Cooper, Julie London, Lee G. Cop et Jack Lord. Qui est Jack Lord?
Hawaii 5-0.
Hawaii, police d'État. Ensuite, sur 13e rue, lundi à 20h40, L'Homme de main de Jesse V. Johnson en 2007 avec Eric Roberts, Robert David, Keith David et Geoffrey Lewis. Pas besoin de vous dire de quoi ça parle. Avez compris, hein, Eric Roberts, il est pas content parce qu'il bossait pour le milieu et puis bon, il a envie de larguer parce que bon, il se rend compte que c'est vraiment un monde d'enculés, que tout le monde essaye d'en chouffer l'autre et donc il se barre, mais seulement les autres sont pas d'accord. Et bon, essaie de lui faire comprendre. Mais attention, c'est Eric Roberts quand même, quoi. C'est sur 13e rue, donc lundi à 20h40, L'Homme de Main. Sur TCM à 22h20, L'Expédition de Four King de Bud Butcher en 53. C'est un western avec Rock Hudson, Anthony Quinn, Barbara L et James Best. Barbara L, qui est Bella, Della Street, pardon, dans les Perry Mason, c'est-à-dire la femme de Raymond Burr, quoi. Perry Mason qui a eu deux périodes. Il y a eu la première période de 57 à 66, donc en noir et blanc, d'accord. Raymond Burr, au bout d'un moment, n'est plus disponible puisqu'il tournait
L'Homme de Fer.
The Iron Man. L'Homme de Fer, chaise roulante, et donc il y a eu une seconde série avec un Raymond Burr barbu de 85 à 93. Là, on la connaît un petit peu mieux vu que il y a toujours Barbara L dedans, hein, elle est toujours là, et il y a surtout William Cat. Rappelez-vous le petit blondinet là, quoi. Hein, alors Perry Mason tiré de des romans de Earl Stanley Garner, dont le premier concernant Perry Mason est sorti quand même en 1934. Mardi sur RTL9 à 20h35, Brannigan de Douglas E. Cox, film anglais avec John Wayne. Bon, en 75, Wayne il en avait plus pour longtemps, hein, je crois qu'il est mort l'année suivante. John Vernon et Richard Attenborough, hein, c'est un flic new-yorkais qui débarque en Angleterre pour y extrader un trafiquant de drogue. Et donc c'est le film surtout qui montre la différence de traitement des flics américains par rapport aux flics anglais, quoi. C'est surtout ça qui est intéressant. Mais le film vaut surtout parce que bon bah il y a pas mal de bonnes bastons, de bonnes poursuites, et il y a un petit humour comme ça dans les dialogues qui est assez sympathique, quoi, et qui tranche avec les rôles qu'on a l'habitude de voir. John Wayne, on le voit tout le temps sérieux. Dans les films de John Wayne, il vous sort jamais de vanne, quoi. C'est vrai, quoi. Hein, c'est le mec sérieux, il faut aller jusqu'au bout et tout, allez, c'est bon et tout. Alors que là, bon, bah, il y a un petit côté un petit peu rigolo comme ça, quoi. Il s'est amusé, à mon avis. Et ce qui rend ce film assez sympathique. Sur TF6, j'en avais parlé la semaine dernière, me semble-t-il, de cette série de vampires. Alors, à 22h20... Adieu Vampire. Alors moi je croyais que ça s'appelait Vampire 2, hein. Après le Vampire de John Carpenter, il y a eu le 2 qui s'appelait Vampire 2, mais là ça s'appelle Adieu Vampire, hein. C'est le Tommy Lee Wallace de 2002 avec Bon Jovi et Natasha Gregson Wagner. Mais
normalement ça s'appelle Vampire 2 Los Muertos.
Ouais, mais enfin bon, il y a plusieurs titres, quoi. Hein, ok. Et après ce Vampire 2, le Vampire 3, à nouveau, la dernière éclipse de soleil avec Colin Eglesfield et Meredith Monroe. Sur Ciné Cinéma Frisson, à 20h40, Initial D de Andy Lau et Alan Mack avec Sean Yeo, Edison Chen et Anthony Wong, bien sûr.
Est-ce que tu l'as vu?
Non.
Alors, t'as vu sur quelle chaîne, Dani?
C'est sur Ciné Cinéma Frisson. Oh. Ah, tu peux courir. Hein. Sur Ciné Cinéma Classique, toujours mardi à 20h40, Mic Mac au Montana. Titre original Stay Away Joe de Peter Tewksbury en 68 avec
Traduction fidèle
avec Elvis Presley, Joan Blondell, Burgess Meredith.
Un film qui doit être sûrement être formidable.
Ouais, Peter Tewksbury qui avait quand même fait Sunday New York en 63 avec Jane Fonda qui est sympathique, on va dire. Sur TCM mardi prochain 20h40, À l'abordage de George Sherman en 52, un film taillé sur mesure pour Errol Flynn qui signait là son premier film à la Universal, avec également Maureen O'Hara et Anthony Quinn sur la chaîne Polar. Alors là, c'est du lourd, 22h15, Marché de Brut. Le titre original, c'est Raw Deal d'Anthony Mann en 48 avec Denis O'Keefe et Claire Trevor. Anthony Mann, de son vrai nom, Emil Anton Buntmann, et qui nous a fait bon toute une tapée. Je vous ai noté quelques, mais enfin, il a fait toute une tapée de western, ça c'est clair. Winchester 73, Je suis un aventurier, The Man from Laramie, et La chute de l'Empire romain, ça c'est pas un western, mais enfin bon, lui, il l'a traité pratiquement comme un western. Et du côté des homonymes, parce que vous connaissez Michael
Mann.
Mann. Il y a également
Automan.
Ah, moi, je connais les camions Mann.
Il y a également Delbert Mann, qui nous a fait Bachelor Party en 57, Separate Tables en 58, les héros d'Iwo Jima en 61, David Copperfield en 70. Il y a également Daniel Mann, qui nous a fait Rose Tattoo en 55, Notre Homme Flint avec James Coburn, excellent, en 65 et Willard en 71, qui est un film d'horreur vraiment spécial parce que bon bah c'est l'histoire de rats qui bouffe pratiquement tout ce qui se trouve. Et bon, c'est vraiment très très sympathique aussi. Sur mardi prochain, sur la chaîne Action à 20h40, Darkman, le Sam Raimi avec Liam Neeson, qui est vraiment très très bien, Frances McDormand. Et sur Virgin 17, une soirée pour se pisser dessus de rire et puis faire les cons, 20h40, les Charlots font l'Espagne de Jean Giraud, et à 22h30, les Fous du Stade de Claude Zidi.
Film préféré de Thomas.
Non, je le trouve très supportable et je ris devant. C'est tout.
Mais tout le monde était stupéfait quand t'as fait ça. T'as juste avoué ça devant une quinzaine de personnes qui croyaient que tu étais un esthète.
Non, mais c'est tout à fait regardable. Hein. Attention. Hein,
mon honneur est enfin sauf en direct.
Non, mais bon, il s'égare, donc, peu après.
Tu as manqué le début, JB, mais il y avait des questions qui se posaient. C'était savoir si ton absence faisait que je.
Savoir si. Taper dessus.
Voilà, exactement. Je me rabats sur Thomas, c'est plus simple.
Rabats-toi sur Thomas.
Ouais. De toute façon, JB, il attend le télégramme spécial sur les Charlots, quoi, et bon,
il nous ferait un topo dessus. Une certaine idée du cinéma français.
C'est bien, ça faisait longtemps, le télégramme.
Ouais. C'est pas moi.
Non, mais...
J'avais du bol, c'est parce que cette semaine, j'en ai reçu deux exemplaires. Je me suis dit, tiens, je sais quoi faire samedi. Je sais à qui je vais le donner.
Alors, tu l'as apporté ou non?
Bah, je l'ai oublié,
mais. Oh, il est trop gentil.
Merci pour cette attention, JB.
Mais ça ne tarde pas.
L'avoir oublié.
Non mais moi je rejoins Thomas. Enfin bon, moi à l'époque je me les ai tapés pas tous mais bon j'ai dû en voir deux au cinéma quand même, quoi, tu vois. Les premiers étaient tout à fait regardables, ça y a pas de problème, et même re-regardables. On peut les regarder plusieurs fois.
On rigole
encore, quoi, même si on connaît les vannes et tout. Par contre, ça s'est vachement gâté par la suite, quand ils sont partis à Hong Kong, enfin bon, les Charlots trois mousquetaires, les trucs comme ça.
Les Charlots Hong Kong, je trouve que c'est l'un des plus risibles au niveau scénario.
Bon, d'accord, ok. Bon, c'est sur Virgin 17. Soirée Charlot, donc c'est mardi prochain. Mais les Charlots, hein, attention, pas Charlie Chaplin.
Les copies françaises.
Voilà. Mercredi, Canal Plus Cinéma vous propose Kingdom of War de Ching Siu Tung, 2008 avec
Jet Li.
Donnie Yen, Kelly Chen, Leon Lai, mais il y a pas Jet Li dedans.
Ah non, c'est grand frère des Seigneurs de Guerre.
Non.
Et
sur Canal Plus décalé, 22h30, Le Bon, la Brute et le Cinglé de Kim Ji Won. Sifi vous propose également une soirée Verhoeven avec 20h45 Robocop et à 22h25 Hollow Man.
Mais c'est toujours les mêmes qui passent.
Écoute,
qui passent les films hollandais, merde.
Les films hollandais,
les seules fois où on les a vus, c'était à la Cinémathèque.
Voilà, ils peuvent pas, ils ont pas, c'est pas les mêmes trucs, hein, donc voilà.
Hein, non, c'est que ça n'a pas été fourni dans un package qu'ils ont signé une fois pour toutes avec une major.
Je pense pas que ça a été réédité en DVD, ça, par la suite.
De quoi?
Si, tu les as chez tes disquaires préférés, je l'ai vu il y a encore la semaine dernière.
D'accord.
Le beau coffret qui est toujours pas. Le prix, je regarde, le prix ne baisse pas d'une année à l'autre, ça c'est dommage.
Non.
Toujours à 50. Attends, si tu les gâtes.
Ouais. Je sais. On est tous les deux sur le coup là. Ouais. On est peut-être pas les seuls aussi. Hein.
J'étais les à deux, tu vois.
Alors là, le téléfilm bouzesque de catastrophe du mercredi.
De faire péter les fumettes.
Cyclone catégorie 7. Oh, en deux parties, hein, attention, hein, 2x1h40 avec Gina Gershon, Randy Quaid, Shannen Doherty,
c'est bon.
Cameron Dado, Robert Wagner, James Brolin, le papa de Josh.
Oui.
Hein, attention, c'est pas n'importe quoi quand même. Hein. C'est Silicon catégorie 7, donc sur TF6, mercredi prochain, à 20h40. Sur Ciné. Je suis désolé, je peux pas t'inviter ce mercredi parce que je regarde Showa.
Mercredi. Toute autre ambiance.
Sur Cinéma Classique à 20h40. Ça, c'est un film qui serait encensé dans Télérama, Les Désarrois de l'élève Turles. Le premier film de Paul Claire Schlondorf en 66. Oh. Magnifique, excellent. Avec Mathieu Carrière, Alfred Dietz et Barbara Steele.
Ce jeté de micro vous était offert par JB.
Ah, tout à fait, tout à fait.
Bon, si, vous avez, si ça continue, je frappe avec.
Alors, c'est tiré du bouquin de Musil, et là, bon, c'est vraiment très très bien. Hein. C'est du film que les Français, maintenant, les Français, ils essaient de faire des films comme ça, pareil, quoi. Tu
non, n'essaie pas de justifier. Bon, 13h45, on va se faire exploser par le producteur de l'émission sportive.
Alors, jeudi, sur France 3, à 20h35, le maître de guerre de Clint Eastwood, avec Brett McGill, Moses Gunn et Mario Von Peebles. C'est un film qui est vachement controversé parce qu'on sait pas exactement si Clint Eastwood
se moque
ou parce qu'il y a les deux, oui. En fait. Il y a les deux.
Il joue sur les deux tableaux.
S'il glorifie la machine militaire, tout ça, quoi.
En tout cas, si vous aimez Eastwood avec les bonnes vannes qu'il envoie, genre il faut pas le faire chier, oh putain, qu'est-ce qu'il va prendre lui, ou lui, il faut pas lui faire à lui, c'est du Eastwood tout craché. La scène inénarrable où il rencontre son futur souffre-douleur dans le bus et que l'autre, il essaie de l'arnaquer et qu'il il le revoit parce que son instructeur après, le regard de Clint Eastwood quand il voit Mario Van Peebles qui sort de la douche.
Terrible, terrible.
Énorme.
Terrible. Terrible. Donc c'est jeudi prochain sur France 3 à 20h35. Paris Première jeudi
les
prochain.
Les douches à l'armée.
Paris Première jeudi prochain vous propose également deux excellents films à 20h35, le western Silverado de Laurence Kasdan avec Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner, Danny Glover, Rosanna Arquette. Moi j'aime bien quoi, franchement quoi, j'aime bien quoi.
Kevin Kline en méchant je crois d'ailleurs.
Ouais.
Non, je sais plus.
Ouais.
Un filou en tout cas.
Ouais. Il est pas net, hein, c'est clair quoi. Et à 22h50, le monumental affreux, sale et méchant des Torres Scola en 67. Alors 76, pardon. Ça c'est, il y a rien à dire. C'est, ça c'est du cinéma italien comme on n'en fait plus quoi. Et alors, sur W9, ils nous font des soirées, deux films excellents à chaque fois. On se demande ce qu'il les prend là, parce que d'habitude.
Ouais, c'est vrai.
Et sur W9, jeudi prochain, 20h35, Incassable de Night Shyamalan. Et à 22h30, un poisson nommé
Vanda. Je te regarde dans les yeux, chef d'œuvre. Et toi? Et après, c'était quoi après?
Un poisson nommé Vanda après.
Oui.
Tu vois, le genre de soirée, bon, tu dis, c'est le genre de soirée qui a signé la mort des vidéoclubs, tu vois.
Oui.
Shyamalan. Pitié.
Shyamalan,
Shyamalan, très
non,
bien.
Je l'ai bien prononcé.
Ouais.
Non, mais lui, il aime pas, et moi, j'adore, et c'est toujours la source de conflit entre les deux.
D'accord.
Je te rappelle qu'il a pas aimé Amélie Poulain. Je te rappelle qu'il a pas aimé Amélie Poulain.
Qui?
Toi?
Non, tu te trompes.
Bon, d'accord.
Alors, sur NRJ 12, jeudi prochain, 22h25, Roadhouse de Roddy Harrington avec le regretté Patrick Swayze, Ben Gazzara, Sam Elliott, Kelly Lynch. Excellent, magnifique. Terrible. Bravo, Patrick Swayze. Jeudi, toujours, sur 13e rue, à 20h40, Sin City, de Roberto Rodriguez et Frank Miller. Sur Sin City.
C'est quoi cet accent italo-mexicain?
À noter que la BD sort actuellement en intégrale. Ça y est, en grand volume, donc si vous avez manqué.
En intégrale?
C'est-à-dire qu'ils sortent en grand volume, plusieurs histoires reliées.
Ouais.
C'est pas inintéressant.
Après,
hein,
c'est comme toi et moi, comme on a déjà les volumes en petit.
Non, pas moi.
Et toi, t'en as qu'un, toi, t'as celui avec Marvel, je crois.
Ouais, je crois, ouais. Peut-être.
Alors, sur Sci-Fi, jeudi prochain, 20h45, Robocop 2 de Irving Kirchner.
Le bleu!
Peter Waller, Nancy Allen, toujours les mêmes.
Alors, c'est où ça?
Moi, j'aime bien, hein, sur Sci-Fi.
D'accord.
Sur TF1.
Et c'est le scénario de Frank Miller. Scénario qui a été adapté en BD, qui est disponible d'ailleurs, qui était sorti chez Albin Michel.
Ouais, non, mais il est bien, hein, le Robocop 2.
Il est très,
quoi.
Très bien. Très cynique, très noir.
Voilà, hein.
Et mieux que le 3.
Tu connais l'histoire.
Attends.
Quand même du scénario. Frank Miller a fait un pari comme il a touché le chèque avant qu'ils aient sorti le script, il a dit de toute façon, ils vont jamais adapter ce que je fais. Donc il fait un maximum de saloperies, toutes les pubs, parodies et tout ça. Et là où il a été surpris, c'est que. Et finalement, ils ont pas tant sabré que ça. Donc, c'est pour ça qu'on en a eu un qui était vraiment très très bon.
Alors, TF6, jeudi prochain, 20h40, Les Dents de la Mort, je vous en avais parlé la semaine dernière, l'histoire d'un requin tueur.
Ah oui. Et qui chope un hélicoptère en sautant
l'eau. Dans les bayous.
C'est pas là requin il chope un espèce d'objet volant en sortant de l'eau, c'est pas ça?
Non, je crois que tu te trompes là, c'est plutôt dans
C'était un truc de mutant
Shark Hunter là.
Voilà, c'est ça.
Non, c'est rien à voir là, c'est plus terre à terre on va dire, hein. Une histoire entre des flics et des trafiquants de dope et tout, mais le problème c'est qu'ils font ça dans les bayous et comme dans les bayous il y a le requin, ça le fait pas, tu vois quoi. Avec Lou Diamond Phillips, Christy Swanson et Coolio. Sur Ciné Cinéma Club, jeudi prochain à 20h40. Et là, c'est toi qui vas en parler de ce film, vu que je t'ai prêté le DVD Pervert de Jonathan Yudis avec Marie Carey et Sean Andrews. Magnifique, un hommage à Russ Meyer, comme vous n'avez jamais vu. Et vraiment, un petit film est tout à fait regardable. Hein, avec,
si vous aimez les gros lolos, si vous aimez les scénarios un peu barrés, le dégustage de maïs très
de maïs et de cerises.
Et de cerises aussi. Ouais. Et surtout une fin qui laisse pantois.
Ouais.
Pour savoir, parce qu'en fait, la fin, c'est la découverte du coupable.
Voilà,
et
c'est
quand
ça.
Quand on voit le coupable,
voilà. on le dit, on le dit pas.
Non, on le dit pas.
Non, on le dit pas. Bon, ok. Dommage, parce que là, c'est peut-être le point d'or du film, à mon avis, quoi. Hein, avec les seins de Marie Carey, hein, bien sûr. Marie Carey qui s'est officiellement présentée lors pour le poste de gouverneur contre Schwartzy, hein, faut le savoir. Hein, et elle était son programme, c'était pornographie libre et tout. Enfin bon, plein de trucs comme
ça. C'est pas sous l'étiquette démocrate que tu t'es présenté. Indépendant.
Candidat libre, on dit. sur Cinéma Classique, toujours jeudi prochain à 20h40, La Loi du Seigneur de William Wyler, Palme d'Or à Cannes en 56 avec Gary Cooper, Dorothy McGuire et Anthony Perkins, une histoire de Quaker qui refuse de porter les armes pendant la guerre de sécession, c'est normal, c'est des Quakers. Donc, c'est donc réalisé par William Wyler, né à Mulhouse en 1902. Il a eu de la chance, ce monsieur, parce que Carl Laemmle, qui était patron de l'Universal à l'époque, c'est le cousin de sa mère. Et donc il l'embauche au service publicitaire d'abord, ensuite comme assistant, et ensuite bah, il lui confie les rênes de film et tout.
Après avoir roulé dans une voiture qui plaisait tant à l'assistante de production, c'est ça ?
Ouais, non, pas forcément. alors il commence sa carrière dans le muet en 25 dans le muet, et il nous a fait, le plus connu c'est bien entendu Ben-Hur. Et il faut dire que dans Ben-Hur, la scène la plus mémorable qu'on connaît, c'est la course de chars. Et en fait, cette course de chars n'a pas été réalisée par William Wyler lui-même. Ça a été réalisé par les assistants réalisateurs Andrew Morton et Yakima Canut.
C'est pour ça qu'il n'y avait pas de dialogue.
C'est pour ça qu'il nous a fait également Vacances romaines, Le Cavalier du désert en 40, Memphis Belle en 44, The Collector. Alors celui-là est pas mal et sympa. Hein. Le titre français, c'est L'Obsédé. C'est assez intéressant, ça tranche par rapport à sa filmographie. Il nous a fait également vers la fin de sa carrière Funny Girl aussi, quoi, avec Barbara Streisand. La Loi du Seigneur, c'est jeudi prochain donc sur Cinéma Classique à 20h40, et sur Polar jeudi prochain 21h, Confession d'un commissaire au procureur de la République de Damiani, un de ses meilleurs polars avec Martin Balsam et Marilou Tolou. Vendredi, enfin, pour terminer, sur Canal Plus, L'Échange de Clint Eastwood 2008, hein, donc le scénario est de J.M. Stradinsky, celui qui avait créé Babylon 5 qui est le mec qui a tenu le plus longtemps sur la franchise Spider-Man chez Marvel. Scénariste, bien entendu. Et là, c'est lui qui fait le scénario de L'Échange, hein, une histoire de bébé qui a été échangé avec Angelina Jolie, John Malkovich et Jeffrey Donovan. Le film est sorti l'année dernière, en 2008.
À noter, puisqu'on parlait justement tout à l'heure des talk shows du soir qui reviennent en soirée. NBC, ils ont 7 projets, je crois. Ils ont financé 7 projets de pilote. Il y en a 2 de ce scénariste. C'est le seul. Enfin bon. Coup de bol quoi pour lui.
Sur Arte vendredi prochain, ça peut être sympathique. Enfin, vu la distribution, ça peut faire quelque chose quand même. À 20h35, c'est anglais Conspiration de Frank Pearson en 2001 avec Kenneth Branagh, Stanley Tucci, Colin Firth, Jonathan Coy et Ben Daniels. L'histoire de Reinhard Heydrich, encore la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça va être rigolo de voir Colin Firth, Kenneth Branagh sous l'uniforme nazi. Entre autres, sur TPS Star à 20h40, The Mist de Frank Darabont avec Thomas Jane, Nathan Gumbel et Marcia Gay Harden. Sympathique, hein. Sympathique quand même, quoi.
Ah, on nous fait signe en régie que non.
Ah non, je me suis fait cruellement chier.
Ah ouais, mais
surtout,
bon,
en plus marqué Darabont, je m'étais dit, ah tiens,
si
pas,
on peut accélérer parce qu'on a la Coupe d'Afrique des Nations là.
Ouais. Sur RTL9 à 22h25, ça c'est le nanar de la semaine.
Ah, fais-nous rêver.
American Ninja 4. de Cédric Sundstrom avec Michael Dudikoff, il est
ouais,
dans le
coup,
et David Bradley, les deux ensemble.
Qu'est-ce qu'ils sont allés foutre dans un truc dont le premier déjà était tout pourri?
Ah ouais, mais non, mais il faut dire que au départ c'est David Bradley qui joue dans la série American Ninja, mais ils se sont dit que pour le 4 ça vaudrait mieux de rajouter Michael Dudikoff. Enfin.
Mais attends, tu
vois, le
rôle qu'il a, tu sais, il est juste là en sidekick, hein. C'est même pas lui le personnage principal.
Alors, c'est on dit sidekick, pas sidekick.
Enfin, de toute façon, il est complètement à la ramasse.
Parce que kick, c'est le coup de pied.
Oh non, mais là, c'est quick, coup de pied au cul, quoi.
Voilà, quick, non, ouais, c'est coupé.
Il y en a qui préfèrent ça à une McDonald's aussi.
Je vais la faire aussi.
Le pitch, il est tuant quand même. Hein.
Non, mais là déjà ta vanne, elle est dure.
Le pitch d'American Ninja 4 est quand même vachement tuant. Un expert en arts martiaux vole au secours de ses anciens camarades retenus en otage dans une forteresse par des ninjas qui veulent attaquer New York. C'est terrible, c'est terrible. Sur NT1 vendredi prochain.
Oh putain. Oh, tu viens de foutre un silence là.
Sur NT1 à 20h35, tunnel de Daniel Baldwin, et avec Daniel Baldwin, on a également Kim Coates, Audrey Benoit et Marc Camacho. Sur Sci-Fi, vendredi prochain à 20h40, Robocop 3.
Ouais, Fly Robocop contre le ninja assassin robot.
Avec Robert Burke, Nancy Allen et Jill Hennessy, preuve à l'appui, hein, quand même.
Respire, JB, respire.
Et juste après, après Robocop 3, 22h25, Absolon, le film dont je vous ai parlé la semaine dernière.
Avec Christophe Lambert.
Avec Christophe Lambert et Lou Diamond Phillips et Ron Perlman. Sur Ciné Cinéma Classique 2, très grand classique du cinéma français, La Belle et la Bête de Cocteau à 20h40 et L'Éternel Retour de 22h15. Vous avez compris, c'est une soirée Jean Marais. Sur Polar, vendredi prochain à 21h, un polar mineur, on va dire, de Altman, mais c'est du Altman, donc ça se laisse toujours regarder, de Gingerbread Man avec Kenneth Branagh et Robert Downey Jr. Il y a également Emmett David, Daryl Hannah, Tom Béranger, Robert Duvall. C'est pas mal, c'est sympa, hein. C'est une histoire de machination. Et Kenneth Branagh qui joue le rôle d'un avocat et Robert Downey celui de flic, ou c'est l'inverse. Non, c'est ça, quoi. Ouais, Branagh c'est l'avocat et Robert Downey et Kenneth Branagh va essayer de sauver Emmett David, qui est la fille de Robert Duvall et qui son père il est pas net et tout, il essaye de, on sait pas trop quoi et tout, et bon, Kenneth Branagh il va se rendre compte que c'est l'huile d'un nom de la farce. Enfin bon, je vous dévoile pas tout quand même parce que bon, ça la fout mal. C'est donc de Gingerbread Man, mais c'est un Altman tout à fait potable quand même, hein. C'est sur Polar vendredi prochain 21h. 21h également sur FX, et je termine par ce film dont je vous ai déjà parlé une fois, Devilman de Eryuku Nasu, en 2004, magnifique, où des démons par erreur sont lâchés sur Terre et tout, quoi. Et puis bon, c'est un ado qui va sauver le monde, tu vois.
Cool, ouais. Heureusement que c'est
classique, quoi.
Ces petits cons.
Bah ouais. Ouais. Enfin, un qui n'est pas devant son PC, quoi.
Salaud, tu m'as fait louper le départ, tiens. Thomas, tu sais qu'il y a des gens qui nous écoutent encore en FM et même pendant les rediffs, et ils ont manqué le début.
Oui, alors aujourd'hui beaucoup de choses. On a eu du Space Opera avec Valérian Laureline, la chronique et l'interview. On a eu de la compression en récompense, on a eu de la nécro d'un géant de la télé, de la BD, du Péplum Jupette, Alexandre Rivien Nisque, du Binoclar post-pubère, une longue parenthèse Shoah, de la tuerie où on fait juste... John Wayne envoie de la vanne, les Charlots sèment la zizanie, du jeté de micro, du requin qui n'avale pas les hélicos, la bio de Wilam Wyler, le retour de Michael Dudikoff, des ninjas terroristes, des ninjas cyborgs, et il y a même des ados qui sont pas là devant leur PC.
Pas l'espace-temps, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver
les chroniques écrites avec cette semaine une rediffusion de Valérian et Laureline, ex-agent spatio-temporel, dont on a fait référence tout à l'heure. Une interview de Sébastien Viosa, la bande dessinée à l'ère numérique, ça c'était une chronique qui a été écrite pour Actua BD, avec les morts de Viosa et Raphaël B. Vas-y, Aboula, non, ça c'est tout à l'heure. Et même un lien direct vers les talk shows du soir aux États-Unis.
Et la page des émissions spéciales mise à jour avec les trombinoscopes des derniers invités.
Ouais, super.
Donc vous écoutez FMR sur 49.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM, et on continue sur www.radio-fmr.net.
13h59 minutes pile. Dans le prochain épisode,
nous serons en direct de la capitale de la Charente et du 9e art.
Angoulême.
Bravo.
Reçu par le Conseil Général des Jeunes. Donc, ils remettront le prix.
Reçu par le Conseil Général de Charente.
Oh, voilà. Et donc, Conseil Général des Jeunes qui remettra leur prix, qui annoncera leur prix en direct. Et peut-être qu'on aura comme l'an dernier.
Avec ActuaBD.
Voilà. Peut-être qu'on aura comme l'an dernier, justement, les auteurs lauréats qui seront là et présents.
Nous vous retrouvons donc la semaine prochaine, même en fréquence.
Et ceci dit, ben merci à vous tous de nous avoir suivis. Ciao, bye bye. Et de suite, c'est du sport.
Ciao. Ciao.